Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 3, épisode 12. Vous pouvez nous contacter à l'adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@mail.ru. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@mail.ru. Je présente nos intervenants de cette semaine. Est avec nous aujourd'hui Fulbert. Salut Fulbert.
Oh, bonsoir à tous, bonsoir Gandalf.
Et MacDav aussi, salut MacDav.
Salut à toi cher Gandalf, salut à tous les auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine.
Ah, c'est également un plaisir de t'avoir avec nous. Et Astérix va nous rejoindre normalement dans quelques instants. Alors, je vous propose sans transition aucune de commencer l'émission de la semaine, hein. Avec notre rubrique phare, hein, autisme radical. Alors, c'est le premier sujet. J'ai appelé ça Karate Kid. C'est un petit sujet comme ça, un petit peu ludique, quoi. Alors, c'est une vidéo qu'on nous a fait parvenir voilà, d'un karatéka un peu particulier, puisqu'il n'a pas de bras. Et il est atteint de nanisme. Et il ne peut pas marcher non plus. Et il fait du karaté, il est ceinture noire. Alors, je sais pas où il a trouvé la ceinture noire. On va écouter un petit extrait, alors juste le son, quoi, parce que bon... Mais pour se plonger un peu dans le truc, et on se retrouve. Bon. Alors, bon, vous avez... bon, c'est un petit sujet ludique. Hein, c'est pas... ça n'appelle pas, de la part de nos participants, de faire de grandes théories sur le sujet. Mais enfin, j'ai l'impression, et je crois pas me tromper, que le handisport est devenu un des vecteurs de la promotion du dysgénisme, hein, qui devient un peu le nouveau paradigme. Donc on a vraiment l'apologie des minorités raciales, qui sont présentés comme étant des minorités défavorisées ou souffrant de, comment dirais-je, de discrimination, de ségrégation, ou alors qui, dont on considère qu'elles ne peuvent pas occuper pleinement leur place dans la société, et que ce soit des minorités sexuelles ou prétendues telles, les transsexuelles et autres, donc des marges des minorités, et en fait le handicap participe de ça, enfin plus précisément la promotion du handicap comme étant quelque chose de totalement normal. Voilà, c'est l'image que ça renvoie. Alors, Fred dans l'évier, j'aimerais bien prendre ta réaction, puis je vais continuer avec les autres intervenants. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce que c'est de plus en plus présent, on voit bien. Par exemple, sur les Jeux Olympiques, hein, c'est maintenant, c'est... les Jeux Olympiques sont... enfin, les Paralympiques sont peut-être pas autant, mais pratiquement autant promus que les Jeux Olympiques, par exemple.
Ah oui, c'est-à-dire que notre vocation en Occident maintenant, c'est devenu de sauver tous les handicapés de la planète, les nègres étant eux-mêmes par exemple hein, des handicapés du cerveau. Mais bon, là effectivement, on a un cas assez particulier. Bon, évidemment, cette personne là, qui n'a ni bras, qui a une demi-jambe, enfin je ne sais pas, on pourrait hein, encourager quelqu'un qui a un handicap pareil à plutôt poursuivre des activités de, je sais pas, de lecture, de recherche, enfin des choses où son handicap justement ne va pas le retenir, où il va pouvoir faire quelque chose de ses capacités, de celles qu'il a qui ne sont pas handicapés. Mais non, on préfère le, voilà, l'encourager, mettre une caméra comme ça pour le filmer. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais il sautille sur son cul, en fait. Boum, boum, comme ça, c'est vraiment spécial. Et bon, effectivement, c'est encore une façon de promouvoir le dysgénisme à grande échelle. Je ne sais pas si on va s'en sortir, mais oui, c'est le projet de toute façon, c'est de sauver toute la crasse possible et imaginable. Alors, si vous trouvez que c'est une vocation particulièrement brillante, bah écoutez, hein, voilà, les jeux paralympiques, pourquoi pas. Amusez-vous bien.
MacDav, tu voulais dire quelque chose là-dessus aussi.
Oui, mais écoute, entre la promotion d'un eugénisme radical qui viserait à fabriquer un nouvel homme en sélectionnant les nourrissons à la nature, à la spartiate, et la non-valorisation du dysgénisme, il y a une infinité de nuances. Donc en fait, quelque part, la radicalité, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est du bon sens. Quand tu as... Moi, je vais le dire, et je pense que ça a été le cas pour tous ceux qui ont vu cette vidéo, j'ai eu un grand moment de rire, puis après de malaise. Parce que, déjà, donner une ceinture noire à ce mec qui ne la mérite pas, enfin, c'est comme ça, je veux dire, il a pas à avoir de ceinture noire, c'est ridicule. C'est de la méchanceté, en fait. C'est vraiment de la méchanceté. C'est si tu dis à quelqu'un qui est pas capable de courir un 100 mètres parce qu'il est cul de jatte, bah vas-y, cours. Et que le mec, il se traîne sur ses moignons, c'est inhumain. Donc quelque part, l'handisport, c'est inhumain. C'est laid, c'est immoral, et c'est pas beau. Et le sport, ça doit être beau. Le sport, ça doit être quelque chose qui doit être agréable à regarder. Et pas uniquement plaisant à pratiquer, si tu veux. C'est pas uniquement le dépassement de soi. Ça doit être beau. On doit voir des beaux corps. On doit voir quelque chose qui nous fasse rêver, qui mette l'humain sur un piédestal. Et ça, c'est absolument.
Ah, disons, il faut nuancer. C'est-à-dire que t'as des gens qui sont vraiment handicapés, qui font un sport qui peut être un sport même assez extrême, mais qui sont vraiment des athlètes. C'est-à-dire que, en fait, toutes les autres parties de leur corps vont être vraiment développées, ils sont vraiment endurants, il est indéniable que les mecs sont vraiment costauds, mais c'est pas plaisant à regarder, parce que bon, tu vois des fauteuils roulants, etc., bon, évidemment, c'est pas la même chose. Et là, le truc, c'est que, j'allais dire, c'est même pas du handisport, j'allais dire professionnalisé, c'est au-delà de ça. C'est vraiment un gars, il fait même pas du sport, en réalité, quoi. C'est-à-dire qu'il gigote, quoi. Et t'as raison. Et on essaye de faire croire que, bah non, c'est normal, que c'est une vraie performance. Et je pense que, voilà, moi je me dis, parce qu'en fait, il y a toujours plus ou moins un message derrière. Et bon, le message qui est sous-jacent, en fait, c'est l'égalitarisme comme orthodoxie, quoi. Hein, voilà.
Ouais, c'est, tout à fait. Mais tu sais, moi, récemment, vu que Facebook, tu sais, maintenant nous suggère un contenu qui est à l'opposé de nos valeurs, enfin c'est l'algorithme qui calcule ça. Toi, j'ai reçu la publication d'une pub du ministère des Sports où tu as une négresse, un PD qui font de la natation. Je sais pas si tu l'as vu. Et dedans, je crois qu'il y a un mec handicapé. Alors, c'est terrible. Hein. Tu sens vraiment la fin de siècle en voyant ça. T'as tout ce beau monde, donc t'as vraiment toutes les représentations des minorités, entre guillemets, qui, sur une musique bah, gay, hein, enfin vraiment gay, te fait la promotion de la diversité et du sport. C'est absolument immonde.
Oui, c'est-à-dire que quand on regarde les images du sport telles qu'on les a en tête, quoi, parce qu'on va dire que le sport tel qu'on le conçoit aujourd'hui, en tout cas partiellement, est hérité de l'Antiquité, quoi. Encore que dans l'Antiquité, ça avait aussi une fonction religieuse. Mais, on va dire, l'esthétique, etc., était très importante. C'est représenté sur les sculptures en Grèce et ensuite dans la Rome antique. Et, en fait, quel est le moteur de ça? Bon, bah, c'est vraiment l'esprit arien. Quand je dis l'esprit arien, c'est vraiment l'esprit européen, quoi. On le voit, c'est clair. Et là, c'est tout l'inverse. En fait, on est vraiment victime de cet égalitarisme dissolvant. Et comme on l'a déjà dit dans l'émission, maintenant, dans cette vision du monde, il y a des catégories bien définies, et plus ce sont des catégories dites persécutées, ségrégées ou marginalisées, plus en fait elles ont de valeur, paradoxalement. Donc le fait qu'elles n'aient pas de valeur constitue leur valeur, et s'inscrivent comme ça dans l'échelle de cette nouvelle valeur, ou plus ou moins l'échelle de l'anti-valeur. Et on est écarté systématiquement toujours le même, c'est-à-dire le mâle hétérosexuel blanc. Voilà, c'est toujours la même chose. Le fait d'être désespérément normal est aujourd'hui considéré comme une tare. Et là, comme je dis, hein, je veux dire, la vidéo, c'est un peu une excuse, mais je veux dire, ça exprime bien ce truc-là, parce qu'en fait, on se rend pas compte le caractère un peu trivial, voire un peu bon enfant du truc. C'est diffusé sur, sur les plateformes vidéo, etc. Ça vise en fait à accoutumer les gens normaux à trouver normal la normalité. Alors moi, je ne suis pas pour ostraciser, si vous voulez, des gens qui ont, un handicap moteur ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je dis. Mais de là à ne pas les ostraciser, enfin les traiter normalement, humainement, et à les magnifier en disant qu'ils valent aussi bien que des gens totalement valides dans un domaine comme le sport, alors qu'on sait que par définition le sport est une activité physique, aussi intellectuelle, mais physique, c'est se moquer du monde.
C'est surtout aussi, je m'excuse d'interrompre, mais c'est surtout aussi l'envie, par la validation de gens invalides, de valider ses propres défauts. Enfin, c'est passé par, voilà, on va. Alors, c'est le l'homme-tronc karatéka, quoi. Déjà, c'est complètement ridicule. Mais je veux dire, si on peut avoir. Ça valide absolument tout. C'est-à-dire, si on peut avoir un homme-tronc karatéka, finalement, bah, tout est possible. C'est-à-dire, tu peux être complètement. Enfin, tu peux être obèse au dernier degré et faire absolument n'importe quoi, faire de la course cycliste. Enfin, je veux dire, je vois pas où est le problème, hein. Puisqu'on a un mec qui n'a pas de bras, qui a une demi-jambe et qui fait du karaté. Donc pourquoi pas, après tout. Et il y a aussi un autre truc, c'est systématiquement, enfin c'est quelque chose, c'est une pulsion de mort, clairement, hein, une société qui met ça en avant, parce que bon, on fonctionne quand même dans un monde de ressources limitées, on veut nous faire croire le contraire, mais on fonctionne dans un monde de ressources limitées, de mettre comme ça, d'investir des ressources pour produire des spectacles, des compétitions, des machins de sport, hein, avec des gens, donc voilà, effectivement, l'homme tronc karatéka, c'est juste, enfin, ça n'a pas d'autre nom, c'est du gaspillage, c'est juste du gaspillage, c'est-à-dire on balance du fric comme ça. Et il y a un autre truc, avant de rendre la parole vite fait, que je voulais aborder, et qui, moi, m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y a quelque chose qui est très à la mode en ce moment, dans certains cercles, hein, même de droite, entre guillemets, enfin, qui se pensent droite, c'est le transhumanisme. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'arrivée de technologies très avancées, en fait, on va pouvoir sauver tous les tarés de la Terre. C'est-à-dire que ces gens qui promeuvent le transhumanisme, en fait, expliquent de façon plus ou moins assumée. Alors, il y en a qui ne vont pas dans ce sens-là, mais ils ne voient pas, je suis pas sûr qu'ils maîtrisent totalement ce qui va avec leur discours. En gros, qu'on va pouvoir sauver tout le dysgénisme ambiant. C'est-à-dire que oui, c'est du dysgénisme, c'est complètement fou, mais on va y arriver parce qu'on va avoir des prothèses, parce qu'on va avoir des machins, parce qu'on va avoir des trucs. Et encore une fois, c'est un problème de ressources finies. C'est-à-dire, on vit dans un monde de ressources finies. Est-ce qu'on n'a pas autre chose à foutre que de s'assurer que l'homme né sans bras et avec une demi-jambe devienne un karatéka? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à foutre? Sérieusement. Bon. Enfin, voilà, la question est posée. Hein.
Alors, je précise que Hopman, Captain America, nous a rejoint pour l'émission, et qu'Astérix est là aussi. Astérix voulait prendre la parole, alors je lui donne la parole.
Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, donc j'avais ça à préciser, que Frédéric vient de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'égalitarisme derrière qui pousse pour cette merde, pour ce freak show, parce que c'est un putain de freak show. Moi, la première fois que j'avais vu ça, c'était il y a 8 ans, et je croyais à une blague. À l'époque, ça passait sur des chaînes, les chaînes du satellite et tout, j'avais vu ça dans un pays étranger, et on avait eu un fou rire, et ça avait choqué absolument personne, le barman avait rigolé aussi, c'était un match de basket, et les mecs jouaient en fauteuil roulant au basket, et ils se tournaient comme ça, ça n'avait aucun sens, c'était un ridicule, mais inouï, il y a du sadisme là-dedans, quoi, hein, de regarder ces espèces de freaks en train de, enfin pour ceux qui parlent pas anglais, freak, c'est bizarre, enfin je sais pas on peut, comment on peut traduire ça exactement. Mais bon. Donc il y a cette mouvance transhumaniste qui pousse à fond derrière, parce que eux, c'est pour eux c'est le meilleur terrain d'essai, quoi, de réussir à transformer un putain de cul de jatte en mec qui fait 100 mètres en 10 secondes, bah c'est un exploit formidable pour les transhumanistes. Et ça prouvera beaucoup. Ensuite, moi, j'ai autre chose à dire, c'est que l'handisport, c'est la continuation de ce qu'on est en train de vivre depuis 15 ans, à savoir la promotion du sport féminin. Le sport féminin, c'est moi, j'en peux plus, quoi. J'écoute beaucoup la radio RMC, là, j'aime beaucoup le sport en règle générale, et il faut voir cette putain de Maryse Evangépé ramener sa grande gueule de négresse à chaque fois que ça parle de sport, à chaque fois qu'on dit que les Français gagnent rien, cette connasse ramène sa grande gueule en disant « Oh, mais vous oubliez toutes les médailles féminines, mais on s'en fout, c'est pas du sport !» Il y avait un jour, je sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a 20 ans de ça, Navratilova, qui était une lesbienne, hein, elle avait les couilles qui dépassaient du short, mais Navratilova avait voulu, dans un défi féministe, défier un joueur... De tennis masculin, je sais même plus, je crois que c'était pas le premier mondial, hein, c'était un joueur du top 100, quoi, ATP. Elle s'était pris 6-0, 6-0. Ce sont des gens, il y a des championnes féminines qui se prendraient des branlées par nous autres dans des sports où elles ont pratiqué toute leur vie. Le sport féminin, c'était déjà le début de la promotion de l'handisport. Ensuite, il y a encore autre chose que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, la performance est plus du tout reconnue. On va dire qu'on prend plus du tout de recul sur ce qu'est une performance. Et moi, là, je voulais parler des Jeux Olympiques qui viennent de passer. On essaye de nous vendre aujourd'hui des mecs qui font un sport complètement anodin. On connaît même pas, personne connaît les règles. C'est un sport qui est pratiqué par 5 putains de cassos au fin fond des Alpes. Là, l'autre qui vient nous je sais même plus comment ils s'appellent, mais ils viennent nous gaver avec des médailles olympiques. Il y a 10 compétiteurs dans le monde. Putain, c'est pas un exploit. On nous vend ça comme des exploits. C'est des putains de très très bien ce qu'ils font. Ils sont les meilleurs sur 10. Bon, quand t'es Lionel Messi, t'es le meilleur sur 1 milliard d'individus. Quand t'es Roger Federer, t'es le meilleur sur 500 millions d'individus. Quand t'es Joshua, t'es le meilleur sur, pareil, 500 millions d'individus. Et on nous met au même niveau des putains de connards qui font un sport dont personne n'a rien à foutre, on essaye de nous les mettre au même niveau que Roger Federer. Et ça, c'est vraiment insupportable, ce manque de recul sur ce qu'est la performance. La performance, elle dépend du nombre d'individus qui rentrent dans la compétition. Quand t'es dans un truc où il y a 20 baltringues, c'est pas un exploit. Donc tu passes sur une chaîne du satellite à 3h du mat, et puis il y aura 20 pélos qui te regarderont. Donc ces trois choses sont dites. Ensuite, pour en revenir à un individu qui lui se lance dans le sport. Donc moi demain je perds une jambe. J'ai envie de continuer mon sport. Bon, très bien. Moi, j'aurais pas envie qu'on me mette en scène. J'aurais pas envie que des gens valides me regardent avec un mélange de pitié, de sadisme. Enfin, je pense que tous les gens valides qui regardent de l'handisport le regardent avec des sentiments très très peu nobles. Soit c'est de la pitié, soit c'est un esprit moqueur, soit c'est. Mais dans tous les cas, il n'y a aucun sentiment noble là-dedans. Et je peut-être que je continuerai à faire mon sport sans mes deux jambes, peut-être que je jouerai au ping-pong ou je ne sais quoi, quel autre sport sur un fauteuil roulant, mais je détesterai, je refuserai que des gens valides me mettent en scène. Et encore autre chose, quand on perd, si tu veux, on a les qualités de ses défauts, je la répète souvent cette phrase, mais quand on n'est plus valide physiquement, pour être réellement quelqu'un dans le monde des valides, dans le monde, dans l'humanité, il faut appuyer là où on peut être réellement performant. Donc moi, je perds, comme Evola avait, je sais pas si vous connaissez Julius Evola, mais Evola avait plus de jambes, apparemment il pratiquait l'alpinisme avant de perdre ses jambes, ou je sais pas quoi, il avait fini comme un handicapé. Bon, bah, il a écrit des bouquins, que certains qualifieront de chef-d'œuvre, moi je sais pas, je n'ai lu que quelques pages sur des forums, mais en tout cas, le fait est qu'il avait l'air d'être un esprit assez brillant, il était sympathisant fasciste et tout, donc ça peut que nous le rendre sympathique, mais le mec n'a pas continué à faire de l'alpinisme avec ses moignons, déjà parce que, bon, c'est un peu difficile, mais en plus parce que animé, c'était quelqu'un qui défendait la tradition, qui défendait l'homme véritable, quoi. Et lui a très bien compris qu'à partir du moment où il a perdu ses aptitudes physiques, eh ben il faut qu'il joue tout sur le mental, la philosophie, et du coup c'est devenu un grand philosophe, un grand penseur. Donc il y a ces quatre choses-là: Freak Show, transhumanisme, la continuité ou continuation, enfin, excusez mon français, hein, un peu merdique, mais bon, du sport féminin et des Jeux Olympiques. Enfin, attention, les Jeux Olympiques, je respecte énormément, mais vous avez compris ce que je voulais dire. On peut pas mettre sur le même plan un tocard qui a 20 compétiteurs avec les sports rois, quoi.
Jeu numéro 2, on change complètement d'univers, encore que finalement, peut-être pas tellement. Le racisme blanc s'affiche à l'univers Paris 8. C'est un article du Figaro, en fait, qui en a fait état. Pour une fois que le Figaro fait quelque chose de bien. Je vous le cite, hein, je vous cite des extraits, je sais pas tout l'article, mais enfin, ça va vous donner une idée quand même de l'ambiance. Alors, depuis un mois et demi, un collectif extrême gauche s'est avec une centaine de migrants dans les locaux universitaires situés à Saint-Denis. Depuis, des tags anti-France, anti-blanc et homophobes, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça, fleurissent sur les murs de la faculté. L'université a annoncé qu'elle porterait plainte. Français égale PD. Femme, voilez-vous. Anti-France vaincra. Mort aux blancs. Beau comme une voiture de police qui brûle. Kill cops, au pluriel, donc tuer les flics. Les murs du bâtiment de l'université, donc du bâtiment A de l'université Paris 8, sont devenus depuis le 30 janvier le lieu d'expression d'une violence extrême contre les blancs, entre guillemets. La France, les policiers, alors je cite aussi visiblement Israël, qui est ciblé, et les homosexuels. Situés à Saint-Denis, les locaux de l'université Paris 8, historiquement marqués à gauche, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ont été investis donc par un collectif, comme je l'ai dit. Et donc voilà, bon, en fait c'est une redite, ils font souvent ça dans les articles. Alors, ces militants d'extrême gauche, dont une partie des universitaires et des membres personnels, ont organisé le 30 janvier donc l'installation d'environ 80 migrants dans le bâtiment A. Depuis, un bras de fer les oppose à la présidence de l'université, pourtant compréhensive, dans les mails qu'elle envoie au collectif. Donc en fait, la présidence essaie plus ou moins d'arrondir les angles, quoi. L'établissement, qui se définit comme une université monde, oh putain, et qui rappelle sa fidélité à l'idéal d'accueil et d'hospitalité, a par exemple mis à disposition des migrants, alors c'est écrit en écriture inclusive comme ils disent, migrants T.E.S, et de leur soutien des planches et des tréteaux pour qu'ils puissent participer à une brocante solidaire. Non mais c'est hallucinant. L'université propose également depuis quelques semaines au collectif de s'installer dans un grand amphithéâtre avec un réfectoire, des communs et des douches, 500 mètres carrés au total, pour libérer le bâtiment A et permettre la reprise des enseignements. Alors, bon, il faut savoir qu'en fait, historiquement, l'université Paris 8 a été créée exclusivement en fait pour déverser les déchets rouges, gauchisants et marxisants, au nord de Paris. Donc, elle a été créée en 69, tout de suite après 68, et ils se sont dit voilà, on va faire une espèce de chambre d'isolement. On va les mettre là-bas, entre eux, ils seront tous contents, ils vont faire de la sociologie, etc. Ça va être formidable. Sauf qu'évidemment, 50 ans plus tard, vous voyez ce que ça donne, quoi. Vous avez des migrants partout, des gauchistes, etc. Alors, bien sûr, c'est pas du tout limité à Paris 8. On aura l'occasion d'ailleurs d'en parler. C'est-à-dire que de plus en plus, l'extrême gauche utilise, c'est pas une surprise, hein, mais utilise les migrants clandestins comme en fait des mercenaires. Hein, ces migrants clandestins voulant simplement pouvoir squatter quelque part, pouvoir ronquer dans un coin, c'est ce qu'ils veulent faire. Et ils les utilisent en fait simplement pour occuper l'espace. Hein. Bon, ça c'est de plus en plus récurrent. On voit bien comment travaille l'extrême gauche. Alors, je donne la parole à nos participants. Qui voudrait commencer ? Personne, je vais peut-être désigner. Alors attention, comme à l'école. Hein. Allez, hop, parle-nous un petit peu de... Par exemple, des slogans.
Bah, qu'est-ce que je te dis sur les slogans ? C'est pretty much ce qui a marqué dessus, hein, les mecs. Mais encore une fois, tiens, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport au handisport. Ce sont des gens de gauche qui prétendent défendre des choses Et quand tu les vois agir au jour le jour, quand tu les entends parler, quand ils sont pas dans leur représentation médiatique, hein, ils ne défendent que le contraire des prétendues valeurs qu'ils ont. Je veux dire, à la limite, s'ils voulaient vraiment hein, créer un monde, une utopie en fait, dans lequel tout le monde s'entendrait, est-ce qu'ils laisseraient faire ce genre de choses? Non, donc comme tu le dis, effectivement, ils utilisent ces abrutis de migrants comme main d'œuvre. Pourquoi? On se le demande bien, hein. Mais encore une fois, voilà, c'est, je sais pas, moi je comprends pas pourquoi les gens réagissent à ça, quoi. C'est quand même marqué. C'est marqué. Il faut tuer les flics blancs, quoi. Alors je sais pas si c'est eux qui l'ont fait ou si c'est les putains de migrants, mais
non,
bon.
C'est pas migrant.
Bon, je pense, par rapport à ça, je pense que c'est encore un argument quoi pour financer le plus sérieusement, le plus lourdement possible les institutions. D'éducation, hein, comme des universités, etc. Alors, il faut plus de financement, plus de professeurs, il faut plus de fonctionnaires, c'est très important.
Plus de syndicats.
Oui. Non, mais bref, de toute façon, ce qui va se passer dans les pays occidentaux, c'est que les institutions donc d'éducation, en général, hein, l'éducation nationale, les universités, etc., vont tellement se décrédibiliser que... Enfin, je sais pas ce qui va se passer avec l'éducation, mais ça va finir par totalement se privatiser. Enfin, plus personne va vouloir envoyer. Tiens, évidemment, tant que le pouvoir socialiste tient encore, bien évidemment qu'ils vont continuer à balancer des perfusions dans tous les sens. Mais dès qu'un petit peu de contre-pouvoir aura l'occasion de s'installer quelque part, mais ces gens-là, on va les mettre au chômage immédiatement. Je veux dire, ça ne sert plus à rien. Ces universités ne servent plus à rien, à part faire de la propagande, évidemment. Gauchiste, mondialiste avec trois parenthèses, hein, etc., etc. Donc, les profs...
Il y a un extrait vidéo où on voit, mais on avait déjà vu ça, on en avait parlé dans une autre fac, hein, on avait eu l'occasion, parce qu'en fait, ça se réplique un peu partout. D'ailleurs, à Nantes aussi, il y a je crois que c'est carrément un château. Enfin, un château, attention, c'est un grand mot. Hein. Un château ou un genre de manoir voilà, mais, qui est sur le campus, qu'ils occupent, et c'est avec des migrants. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des professionnels de l'agitation en fait, qui s'enregistrent comme syndicalistes, comme étudiants, mais qui n'assistent pas au cours en fait. C'est simplement, ils sont payés par des organisations politiques pour, si vous voulez, recruter les étudiants qui sont en fait très généralement pas politisés, très peu politisés ou en tout cas très influençables. Et donc, ils ont besoin d'avoir en permanence comme ça des agitateurs. Pour le cas échéant, c'est-à-dire si jamais il y a une nécessité de mobiliser, voilà, bah là ça va se passer, je pense qu'on va en parler un peu, mais avec un sujet après, mais ça fait le lien avec l'université, c'est-à-dire que c'est un réservoir d'agitation en fait, les facultés et même les lycées dans une certaine mesure. Le Parti socialiste a toujours eu ses syndicats étudiants, a toujours des revendications bidons d'ailleurs, mais il s'agit toujours de les utiliser pour comme auxiliaires pour des mouvements plus généraux. Hein. Et en fait, bah, de plus en plus, ils n'ont même plus suffisamment d'étudiants. Je veux dire déterminés, motivés pour bouger. Donc, créer une situation de blocage, prendre des clandestins, c'est finalement ça tombe sous le sens pour eux quoi. Donc parce qu'il suffit juste de les guider. Enfin voilà, ils sont dans ces grandes villes, les grandes métropoles, Lyon, Brest. Bon Brest c'est jamais arrivé, mais il y a ouais toutes les métropoles, Rennes.
D'ailleurs, quand tu dis ça, antifasciste, même pour les petits blancs de gauche, ça fait plus rêver quoi. Enfin, je sais pas si tu pourras m'aiguiller un petit peu ou apporter de la précision, mais dans des discussions avec des gens de gauche, hein, pendant mon adolescence, etc., très souvent, j'avais entendu l'argument, enfin, cette idée que, à la suite de révolutions fascistes d'extrême droite, évidemment très méchantes, immédiatement, certaines classes, hein, comme les professeurs, hein, les intellectuels, avaient été pris pour cible et véritablement, épuré, et je me disais, quelle surprise, on se demande pourquoi, hein. C'est vrai que, voilà, donc je sais pas si tu as des exemples, voilà, mais c'est une idée que j'ai déjà entendue plusieurs fois.
Le problème fondamental avec l'éducation, avec le ministère, parce que c'est un très grand ministère, très puissant, 1 million de personnes qui sont salariées là-dedans, on parle de quelque chose d'absolument gigantesque, dont l'influence est énorme, puisqu'elle forme, elle est censée former, toute la population, c'est-à-dire que tout le monde va à l'école. Tout le monde va à l'école. Donc l'influence du ministère de l'Éducation nationale sur les esprits est absolument considérable. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a une action qui a été entreprise depuis de très nombreuses années par des groupes d'influence, notamment atlantiques, il faut le noter, américains, etc., mais précisons bien, de trotskiste américain, voilà, là aussi avec beaucoup de parenthèses. Et Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre, d'ailleurs, faisait l'aller-retour avec les États-Unis. Elle allait dans des trucs très, très... Bon, j'ai pas besoin d'expliquer quelle est la composition ethnique du personnel dirigeant des universités américaines. Voilà, c'est pas besoin d'expliquer. Et donc, elle faisait l'aller-retour sans arrêt. Et alors, l'idée, c'était pratiquement de prendre les ordres pour promouvoir certaines choses comme toutes les questions sexuelles dont on a parlé, enfin la promotion de la transsexualité, le féminisme, tous ces machins-là, et que ça se traduise dans les programmes, dans le recrutement, etc. Bref. Donc, ce boulot de destruction, il est très marqué maintenant, mais en fait, il faut bien comprendre que ce ministère, c'est le ministère le plus important du système républicain. Ça, il faut jamais le perdre de vue. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus qu'a été forgé le régime républicain dans les années 1870. Parce que quand la France a été battue par la Prusse, la France s'est interrogée sur les raisons de sa défaite. Et ils se sont rendus compte que les militaires allemands et les officiers allemands étaient très bien formés. Très bien formés en géographie, en mathématiques, etc. Et ils se sont dit, il ne faut pas chercher trop loin les raisons de notre défaite, c'est que notre machine éducative, celle qui va former nos soldats, n'est pas bonne. Donc, non seulement il nous faut une très bonne éducation pour avoir de futur une excellente armée, mais en plus, si on veut que les idées républicaines triomphent, que le régime s'implante durablement, il faut qu'on contrôle les esprits. Et donc, il y a eu une lutte terrible contre l'enseignement confessionnel catholique, ce qui fait que pendant très longtemps, dans les communes, moi je l'ai vécu, peut-être pas d'autres, mais pendant très longtemps, les communes, c'est très marqué là d'où je viens, mais dans d'autres, c'est pas vrai, vous aviez l'école privée et l'école publique. Et c'était deux types de populations qui se regardaient en chien de faïence. Et il y avait les gens de la laïque et il y avait les gens de l'école catholique. Et c'était comme ça. Et ça a très longtemps marqué, ça s'est beaucoup recoupé avec le prisme, la ligne de démarcation droite-gauche. Et en France, l'avancée des idées de gauche, l'installation du régime républicain a été concomitante de l'édification de ce ministère de l'éducation qui jadis s'appelait ministère de l'instruction. Et en fait, c'est par paliers que ça s'est produit, cette promotion des idées. Alors au départ, si on compare par exemple le ministère de l'instruction de la Troisième République avec ce que c'est aujourd'hui, ça n'a rien à voir, parce que c'était quand même quelque chose d'élitiste, de méritocratique. Je veux dire, peu importe les principes fondamentaux philosophiques qui animaient les républicains, le camp républicain, on va dire, à l'époque, il y avait quand même l'idée de tirer vers le haut le peuple. C'était très présent. Et ce qui s'est passé, en fait, les communistes ont commencé à infiltrer tout le système d'enseignement très tôt, hein, parce que c'était infiltré par les socialistes au début du XXe siècle. Les communistes ont très vite pris le pas dans les années 20 et 30, et après la guerre, c'était catastrophique. Après la guerre, finalement, toutes les formes d'opposition, enfin tout ce qui existait de droite a été détruit par De Gaulle et les communistes. Donc il n'y a plus de droite en France, mais en France, depuis 75 ans, en France, il y a une droite antifasciste et pro-communiste, ou compatible avec le communisme et le socialisme. Et donc tout ce qui pouvait constituer une espèce de cercle de résistance intellectuelle qui aurait pu marquer la société a été détruit. Et avec 68, là, ça a été la dernière ligne droite, quoi, parce que là, tous les principes d'autorité, de hiérarchie, tout ça, ça a été complètement détruit. La mixité a été détruite. Très important, ça. C'est-à-dire que pour structurer les gens dans leur être, évidemment que la non-mixité dans les écoles, on va dire jusqu'au collège, est très importante. Très, très importante. Ça permet aux jeunes filles, des jeunes filles, de passer leur thé tranquillement sans avoir des hommes autour d'elles pour les distraire et inversement. Ça a été supprimé. Et maintenant, vous avez des gamines avec des gamins de 12 ans. Bon, bah voilà, on sait très bien ce qui se passe. Imaginez aujourd'hui, surtout avec les iPhones, etc., ce que les... Bon, pas besoin de vous expliquer. Et puis tout le reste, quoi. Donc, ce qu'on voit dans les facs aujourd'hui, bah, c'est jamais que... c'est la dernière ligne droite. Alors, ceci étant... Bah, de toute façon, il y a... Je pense qu'il faut... Je vous invite à regarder des vidéos de Bernard Lugan, parce que lui-même est professeur d'université, Bernard Lugan. Je vous invite à regarder, il a fait une vidéo là-dessus, enfin un entretien à ce sujet, quand il parle de l'enseignement supérieur en France. Il explique comment lui, il a essayé, dans les années 80, de créer une espèce de bastion de résistance à Lyon, je crois que c'était Lyon 3, où en fait ils ont voulu faire une université de droite, avec des gens sérieux, attention, pas du tout des peintres, hein, des gens très très sérieux, spécialistes dans leur domaine, mais de faire une université de qualité. Ils ont été traînés dans la boue, c'était Michel Noir, avec beaucoup de parenthèses là encore, qui a opéré la destruction de cette faculté. Il y avait Bruno Gollnisch, il y en avait d'autres dans cette université. Ils l'ont détruite, pourquoi? Parce qu'ils ont senti le danger. Ils se sont dit, s'ils ont du succès, demain ils formeront des élèves par classe entière, et ça formera une élite, quoi, si vous voulez, une élite intellectuelle qui ensuite se retrouvera un peu partout dans le pays, dans des facs, etc. Et c'est pas possible. Une seule fac, dites-vous bien ça, une seule fac. Donc ils n'ont jamais laissé passer ça. Et maintenant, face à ça, et j'en termine, je pense qu'on peut pas rectifier le tir. C'est-à-dire que l'université française, elle est morte. Vous voyez, il y a Macron qui veut rétablir empêcher l'entrée automatique dans les facultés. Il veut qu'il y ait des tests. En fait, c'est pour redonner une véritable valeur à l'université, enfin au diplôme universitaire, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Moi, je l'ai constaté, d'autres le constatent aussi, c'est que en fait, quand vous arrivez à l'université, vous êtes au niveau lycée maintenant. C'est ce qui se passe. Et dans l'orthographie, c'est dramatique. Vous avez des gens qui sont en université. Vous regardez l'orthographe qu'ils ont, c'est à pleurer. Et c'est pas possible, des choses comme ça. Je veux dire, ça aurait été impensable il y a quelques décennies, quoi. Maintenant, c'est totalement admis. Donc, en fait, la fuite en avant dans la destruction, pour moi, elle peut pas être enrayée. Donc, comme tu l'as dit, à mon sens, ce qui va se passer, alors à part quelques grandes écoles, parce qu'il y a encore des grandes écoles élitistes, précisément, quoi, qui font du classement, qui laissent pas rentrer tout le monde, donc, qui ont des résultats à la clé, mais pour l'université publique, ça, c'est plus possible, à mon sens. Il y aura peut-être des initiatives privées, mais de toute façon, vous êtes pénalisés. C'est-à-dire qu'en France, n'oubliez pas une chose, c'est que l'enseignement catholique est limité à 20%, par exemple. Elle ne peut pas ouvrir au-dessus de 20% du nombre d'élèves.
Oui, et puis attention, le catholique sous contrat est particulièrement fliqué. Ouais. Et très, très gauchisé.
Donc, les musulmans mettent leurs enfants... Excuse-moi, Magdab, je laisse continuer, mais juste parce que j'ai été dans ces lycées privés, les musulmans qui ont un petit peu de thunes mettent souvent leurs gamins dans parce que les écoles coraniques n'existent pas encore en France, et ils mettent souvent leurs gamins dans des écoles privées. Ils pensent qu'ils seront un petit peu mieux tenus, et c'est vrai que les musulmans sont moins gauchistes que les occidentaux, en règle générale. Et du coup, tu te retrouves en fait avec des musulmans, et je pense que très très bientôt, il y aura dans les écoles privé l'étude du Coran en parallèle de l'étude des évangiles. J'en suis absolument persuadé, c'est peut-être déjà en place d'ailleurs.
Bah, de toute manière, dans le public, dans le privé sous contrat, l'étude de la religion n'est pas obligatoire. Donc tu peux très bien t'en passer, hein. c'est pas du tout un souci. Bah, et il va de soi que dans le public sous contrat, on peut sélectionner son public, c'est les élèves. En aucun cas, on peut les sélectionner selon leur religion ou leur race.
Ah oui, non, ça c'est pas valide.
Non, en fait, là où il y a, en fait, des petits miracles qui se font parce que tu mets quelques types avec de la discipline, tu sélectionnes les élèves, c'est le hors contrat. Hors contrat, la République n'en veut pas. Et c'est le hors contrat, faut dire quelque chose, c'est que tu n'as pas de moyens. Si tu commences à payer les profs de tes enfants, plus les profs des autres enfants via tes impôts, c'est un gouffre financier. Mais il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Écoute, moi je voulais donner mon expérience personnelle par rapport à la fac. Le niveau s'est effondré, mais... à un point dont on n'ose même pas s'imaginer. Vraiment, il m'est arrivé assez récemment de voir des dissertations d'étudiants de licence. Ça s'est vraiment effondré. Mais à un point qu'on ne s'imagine même pas. Alors c'est une bonne chose, parce que ça réoriente des bacheliers vers des formations qui ne sont pas des formations universitaires, qui sont des formations techniques, où les gens vont pouvoir trouver un métier, un emploi, s'épanouir et être utile à la société. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans. Mais les facs sont dans un état crépusculaire. Mmh. Moi, j'ai déjà pris, les bus de la fac à 20h le soir, où viennent tout un tas d'Africains qui viennent suivre des cours de langue étrangère. C'est crépusculaire. Mais il faut voir la chose. Quand tu rentres dans un bus des transports que tu es autour, tu es que le seul blanc, pas à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans une ville de province, et que ça parle je ne sais combien de langues, et que tu vois que quelques gauchistes, mais ils sont rien du tout. Ils sont quoi? Ils sont grand max une trentaine, et encore, tous ne sont pas des étudiants, la plupart sont des types qui viennent de l'extérieur. Ces types ont un pouvoir de nuisance phénoménal, alors que, enfin, si quelques étudiants un peu sensés, pas forcément de droite, hein, leur mettaient une bonne rouste, ces mecs, mais ils fermeraient leur gueule. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils ont le soutien des halogènes. Les halogènes les méprisent à un point qui est phénoménal. Donc, quand tu vois, effectivement, les insultes anti-PD, enfin, entre les insultes dites homophobes et anti-françaises et, enfin, anti-blanches, c'est l'aboutissement normal.
Ouais.
Quand tu excites le nègre s'excite et devient incontrôlable.
Bah, c'est-à-dire donc, qu'ils en, ils en arrivent ils en arrivent à dire, oui, femme, voilez-vous, mais il y a une cohérence, hein, c'est vraiment la volonté de d'autodestruction, enfin, ils en sont là. Hein. Mais... Alors sur l'enseignement catholique, moi je voulais préciser un truc parce que j'ai été dans les deux, moi public et catholique, et bah pourtant j'étais dans un lycée catholique qui était quand même réputé pour être catholique, et en fait déjà la messe n'existait plus, donc il y avait bien une chapelle, mais il n'y avait jamais de messe qui était dite pratiquement. Les frères qui étaient des profs jadis n'existent plus, enfin ça a disparu, parce que c'était en fait il y avait ce lycée-là, c'était vraiment un lycée catholique très ancien qui était tenu par des religieux. Donc c'était vraiment comme maintenant on en trouve quelques-uns hors contrat comme ça ici ou là, il y en a, hein. Vous voyez les bonnes sœurs comme jadis, ou avec les coiffes, etc. Ça existe encore. C'est très rare, mais ça existe encore. Mais ça, c'était la règle en France dans l'enseignement privé. C'était les sœurs qui s'occupaient de tout ça, et les sœurs ou les frères, quoi. Et ça a complètement disparu. Donc c'est plus vraiment quelque chose de catholique. Il restait juste le crucifix dans les classes. Et tous les profs que j'ai rencontrés étaient tous des socialo-communistes. Et notamment prof de philosophie, c'était un marxiste revendiqué, sartrien. Voilà. Donc c'était drôle parce qu'il y avait le crucifix au-dessous, il nous parlait de Sartre extatique, alors que Sartre c'est quand même pas, à niveau philosophique, c'est quand même pas très intéressant, je trouve. Mais bon, c'est voilà. Et donc je vous parle de ça il y a 15-20 ans en arrière, quoi. Oui, il y a 20 ans en arrière. Donc aujourd'hui, je veux dire, la référence catholique n'est plus que purement symbolique. N'est-ce pas ?
Ah oui. Alors moi, ce constat catastrophiste, catastrophique, qu'on est en train de faire là, m'amène une petite réflexion, si vous voulez. On s'adresse à pas mal de gens de droite. La plupart de nos auditeurs sont des gens de droite. Et il y a un problème avec les gens de droite, c'est qu'ils ont un grand respect de l'ordre et un grand respect de la légalité. Et aujourd'hui, l'ordre et la légalité, enfin les deux sont liés, c'est des choses qui sont absolument dégueulasses, immorales, gauchistes. Et moi j'ai constaté ça chez beaucoup de droitards, beaucoup de gens de droite. C'est très très difficile pour eux d'admettre que les études c'est devenu de la merde. Alors, en tout cas, j'exclus évidemment les sciences dures. C'est très difficile pour eux de reconnaître que l'armée c'est devenu de la merde. J'exclus les commandos. C'est très difficile d'admettre que l'Église c'est devenu de la merde. J'exclus l'Église traditionnelle, enfin les traditionalistes, Saint-Pudice, machin. Enfin, mais à chaque fois il y a un petit havre de droite qu'on retrouve dans ces choses-là. Mais les types ont du mal à rejeter tout ça. On voit même, j'ai entendu l'homonyme là, quelqu'un qui essaye de se faire passer pour notre ami Frédéric Danslévier, un espèce d'hongrois gonflé à la testo, inconnu au bataillon, mais qui se fait passer pour notre ami. Il se vante en vivant je ne sais où dans un pays de l'Est, il se vante de payer ses impôts. Et le mec s'imagine être de droite en balançant des millions à la France. Mais aujourd'hui, payer ses impôts en France, tu peux le faire, mais il faut admettre que quand tu le fais, c'est parce que tu n'es pas, t'es pas assez malin ou pas assez courageux pour y échapper. Payer ses impôts en France aujourd'hui, c'est criminel, c'est filer des thunes aux gens qui veulent nous exterminer. Il n'y a absolument pas de quoi se vanter de payer ses impôts. Un mec de droite aujourd'hui qui fait des thunes doit être dans l'évasion fiscale, doit être dans le... Mais c'est une évidence, quoi. Il ne doit pas filer une thune à ses fils de pute. Voilà, qui vont financer les profs, les flics, enfin toutes ces merdes. Donc vraiment, établir un signe d'opposition entre légalité, moralité, entre ordre et moralité. Aujourd'hui, ces deux choses n'ont rien à voir. La moralité, il faut l'avoir, il faut pour ça se référer à nos ancêtres. Moi, je m'imagine toujours, pour savoir ce qui est moral et ce qu'on doit faire, je m'imagine toujours que nos ancêtres, que Astérix, le vrai, me regarde, quoi, depuis le ciel. Et je m'imagine ce qu'Astérix aurait fait dans ce monde pourri, quoi. Et je sais très bien qu'Astérix n'aurait pas payé ses impôts. Donc, bref.
Alors, je vous propose de continuer sur le deuxième sujet. Non, la rubrique numéro 2, mais qui fait le lien. Pas quitter le monde de l'université. Rubrique numéro 2, c'est le droitard de la semaine. Ah, on a retrouvé quelqu'un là qui s'inspire des chemises noires, hein, vraiment. C'est le doyen de la faculté du droit de Montpellier, Philippe... Pétel. Philippe Pétel.
Et c'est à une syllabe, hein, de...
C'est-à-dire ?
Philippe P...
Oh, pour une fois qu'on a quelqu'un qui fait du bien, tu vas pas en dire du mal. Alors, Philippe Pétel était au cœur d'une polémique... Alors je cite, ça c'est un article du Midi Libre. Était au cœur d'une polémique depuis jeudi 22 mars au soir après l'évacuation violente par des hommes encagoulés d'étudiants qui occupaient un amphithéâtre de la fac de droit. Le doyen de la faculté de droit de Montpellier, donc Philippe Pétel, a démissionné dans la soirée du vendredi 23 mars, annonce ce samedi l'université dans un communiqué. Philippe Pétel était donc au cœur de la polémique, comme je l'ai dit. Alors, on va l'écouter parler, parce qu'il s'est pas démonté, il a revendiqué l'action. On l'écoute, et on se retrouve.
Moi, je ne demandais qu'à voir la police toute la journée. Je ne l'ai pas eu, au grand désespoir des étudiants qui étaient autour de moi. Hein. On attendait la police parce que, en fin d'après-midi, l'évacuation aurait pu être faite par la police sans aucune difficulté. Hein. Et à un moment, il y avait une quarantaine d'occupants que la police aurait pu évacuer sans aucune difficulté. Et on a laissé passer cette fenêtre et à ce moment-là, les étudiants qui étaient autour de moi l'ont très mal pris. Hein.
C'est vous vouliez avoir fait rentrer ces gens-là?
Oui, absolument. Je n'ai fait rentrer personne. Il y avait une bonne cinquantaine d'étudiants qui étaient là. Hein. Et ils ont voulu se défendre. Voilà. Et moi, je ne peux pas les en blâmer.
Pour vous, c'est des étudiants en fait, qui étaient contre cette occupation?
Absolument. Les étudiants en droit qui étaient là étaient tous contre l'occupation.
Mais les personnes cagoulées qui sont venues.
Alors là, si certains étaient cagoulés, des cagoulés, j'en ai vu de temps en temps, mais enfin, c'était plutôt dans le clan des occupants. Hein. Moi, je suis assez fier de mes étudiants. Je les approuve totalement.
Alors, bon, c'est la première fois que je vois ça, moi. Hein. Quelqu'un qui, non seulement, prend la défense de ses étudiants, les étudiants qui en ont marre, en fait, des gauchistes qui viennent foutre la merde, les virent avec les méthodes qu'utilisent habituellement les gauchistes, confère le cas de Paris 8, hein, parce qu'on peut pas dire que la non-violence, etc., soit vraiment leur spécialité. Mais par contre, vous touchez un de ces rouges, vous avez toute cette lèpre qui se mobilise. Alors, il y a eu de la mobilisation partout. À Lyon, ils ont foutu la merde dans un amphithéâtre. Enfin, ils étaient en train de se mobiliser partout, et y compris à Montpellier. Alors, bon, déjà, il faut quand même saluer Philippe Pétel pour quand même son action et l'action de ces gars qui ont quand même pris la défense des étudiants. Il a démissionné, évidemment, parce que le ministère a communiqué immédiatement pour dire qu'il lançait une enquête. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Vous avez des présidents d'université qui organisent l'installation de migrants clandestins dans les facultés. Il se passe rien. Vous avez un doyen qui essaye d'empêcher d'immondes gauchistes de foutre la merde pour entraver en fait l'enseignement dans la fac. Et là, vous avez attention mobilisation et comment et quoi la dérive fasciste et c'est parti quoi. Et évidemment, il s'est dit je vais pas me lancer dans un imbroglio sans fin. Je marque mon coup et je sors par la grande porte, c'est clair. Ceci étant dit, les rouges vont probablement pas s'en tenir à ça, mais c'est quand même une très belle action. Hein. Ça nous change vraiment de toutes les serpillères qui existent en France, d'ailleurs pas uniquement dans l'enseignement, loin s'en faut, hein, un peu partout, qui se couchent en toutes occasions devant cette vermine socialo-marxiste, quoi. Je veux dire, c'est quand même caractéristique. Et pour une fois qu'il y en a un qui résiste, bah, il est criminalisé, hein, le drama commence, et voilà. Alors, je veux prendre vos réactions. Alors, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le négatif de ce qu'on a vu à Paris 8. Hein. Qui veut prendre la parole ?
Bah, des gauchistes qui se font taper dessus, ça doit arriver. Je veux dire, ils passent leur temps à provoquer, voilà, à chercher à foutre le bordel partout. Donc là, des étudiants, voilà. Un jour ou l'autre. Enfin, c'est-à-dire, quand on c'est une question de physique, hein. C'est-à-dire, plus on pousse dans un sens, plus ça, une force opposée revient dans l'autre, n'est-ce pas ? Donc, forcément, un jour ou l'autre, ça devait finir par arriver. Je pense que ça va se produire de plus en plus. Donc, oui, bah, c'est ce qu'ils demandent, hein, je crois, hein. C'est ce qu'ils veulent. Donc, moi, je suis pas choqué, je trouve ça normal.
Ouais, c'est-à-dire que le gauchiste est intrinsèquement femelle. Il vient t'agresser, il vient te menacer physiquement, mais quand tu répliques physiquement, de façon totalement symétrique, il appelle à la lutte contre la haine et la violence. Lui, par contre, là, sa haine et sa violence, il n'y a pas de problème, hein, que c'est une violence du bien. Par contre, toi, quand tu répliques, tu te défends, ah, ça chiale. Ce sont des putains de femelles. Ils viennent t'agresser, tu réponds, tu leur en mets une. Ah bah voilà, ouais, il pleure. Donc ce sont des putains.
Ça rappelle le comportement d'autres personnes. Hein, je...
Oui, il dit femme, moi j'aurais dit juif.
Ouais, bah effectivement, mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont dit que le comportement femelle était un comportement en grande partie juif.
Oui, mais la femme peut aussi être masochiste et se satisfaire en fait des tartes qu'elle prend dans la tête. Alors que le juif, lui, en fait, c'est juste du sabotage complet et enfin, à tous les niveaux, quoi. Hein.
Ouais, bah moi, si tu veux, quand je vois un gauchiste et surtout une gauchiste, j'ai l'impression qu'en fait tout le monde se retient de lui mettre une bonne paire de gifles. Et le drame, c'est que ça fait des années qu'on leur met pas de gifles parce que personne ne se croit autorisé à la recadrer. Et ça te crée des putains de monstres, en fait. T'es de monstres qui sont dans les facs à bac plus 5. Alors, elles passent des concours, elles deviennent je ne sais quoi.
Rien.
Non, mais c'est des postes administratifs de merde. Ouais. Mais ça a quand même un poids. Tu peux pas dire que...
Et je veux dire, dans la vidéo, par exemple, je réagis par rapport à ça. Dans la vidéo, t'as une gonzesse là qui a les mains, elle a un peu de sang sur les mains, genre elle s'est fait taper, je ne sais pas quoi. Enfin, elle est en train de crier, de trembler. Bref, comme si voilà, elle s'était pris des coups. Enfin, bon, elle a juste un peu de sang sur les mains, là, mais de façon complètement hystérique. Et je veux dire, dans le regard, même dans la forme de son visage, tu sens que ça va être une. Ça va créer. Elle est déjà vieille. C'est déjà une vieille bique. Complètement sans âme, hystérique, enfin le monstre, quoi. Et c'est juste par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire on a vraiment créé des armées de monstres, c'est-à-dire de gamins parfaitement insupportables, qui ne savent pas comment, enfin quand s'arrêter eux-mêmes, et puis qui quand évidemment mécaniquement une force opposée leur tombe sur la gueule. Ne comprennent pas ce qui arrive, hein, comme si ça n'était pas prévisible. Donc il y a des gens comme ça qui ont bien besoin de passer un petit moment dans des camps.
Excuse-moi, Gandalf, mais ça démontre une fois de plus que l'agressivité, c'est quelque chose de féminin, c'est un truc qui touche les pédales. Les femmes, enfin l'hystérie, la racine d'hystérie, c'est l'utérus. Aujourd'hui, les féministes et toute cette clique essayent de nous faire croire que c'est l'homme testostéroné qui est agressif, qui est méchant. Non, effectivement, la testostérone peut amener la violence, parce que effectivement, la testostérone donne de la force et tout, mais pas de l'agressivité. Les gens bourrés de testostérone, des mâles dominants, les hommes durs, qui ne sont pas chez les gauchistes, qui ne sont pas dans ces associations d'antifa, ces gens sont calmes, ils sont posés. chaque fois qu'on voit de comme ça des bandes hystériques prêts à lyncher tout ce qui bouge, tout ce qui traîne, on se rend bien compte que c'est des bandes de pédales. Après, que ce soit, il peut y avoir des pédales, il peut y avoir des pédales gonflées. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de morphotypes chez les pédales. On se rend compte que ce sont des gens qui manquent cruellement de testostérone. Et donc, ça va complètement contre la propagande féministe, quoi, qui essaye de faire passer le mal pour le mal pour le mal, quoi.
Bah, moi, je peux observer aussi une chose, c'est que ils se sont envolés comme une volée de moineaux, hein, précisément. Hein. J'ai regardé les images. Donc, en gros, ça dure 10 secondes. Les types arrivent avec des lattes, en fait, ils s'en servent pratiquement pas. Ils les gigotent un peu en l'air, ils tapent un peu sur les tables et tout. Il y a probablement un mec ou deux qui a dû ouvrir sa bouche, hop, un petit coup de latte dans la tête. Et ils sont tous partis en courant. C'est-à-dire que, voilà, l'occupation révolutionnaire de la fac de droit de trucs... Ça a duré, enfin, c'est-à-dire, ça a été clos en moins de 30 secondes. Donc, c'est ça le truc aussi, c'est qu'en fait, pourquoi cette action-là a vraiment terrorisé les rouges, outre les rouges, les gauchistes et tous ces petits bourgeois qui savent pas quoi faire de leur journée, c'est qu'en fait, le roi est nu. C'est-à-dire qu'en fait, quelques mecs déterminés dans chaque fac, qui se mettent vraiment à dire bon, ici c'est pas un lieu pour foutre la merde, on vient là pour passer nos examens, l'ordre serait très vite restauré. Et comme ça a été filmé et démontré, alors comme je dis, outre la réaction hystérique caractéristique, c'est aussi le fait qu'ils se disent attention, si on se fait dégager des facs dans une fac par trois mecs un peu énervés avec des lattes, demain virtuellement on peut se faire virer de partout, quoi, parce que en fait, on n'a pas le physique. Et voilà, parce que c'est beaucoup des bonnes femmes, hein, vous regardez le truc, c'est des bonnes femmes qui crient, des machins, c'est pas ces femmes-là qui vont opposer quelques résistances que ce soit.
Avec des physiques et des attitudes de ghoul, quoi, je veux dire, des trucs. c'est vraiment atroce, hein, physiquement, à voir, émotionnellement, enfin, tu vois, tout se voit dans le regard, quoi.
Ces universités tiennent dans la longue durée, parce que c'est comme ça tout le temps. Donc au bout d'un moment, oui, ça revient à ce qu'on disait, ça va se terminer en fait dans la décrépitude la plus totale. On va bien voir comment ça va se passer là, mais c'est absolument clair, quoi. Et c'est toujours les mêmes choses, les mêmes agitateurs. Et ensuite, vous savez, ces manifestations d'étudiants dans les rues. Moi, je veux dire, je les ai observés suffisamment près, je sais comment ça marche. Vous avez les mecs, ils arrivent, ils ont des bandeaux rouges sur les bras. C'est tous les mecs du Parti socialiste. Ils arrivent là-dedans, sortis de nulle part. Ils vous disent où le cortège y va. Mais eux, ils sont organisés, parce que je vous assure qu'une foule qui manifeste dans une rue, c'est la même chose que des troupeaux de moutons au sens le plus strict, c'est-à-dire que ou des troupeaux de vaches. C'est-à-dire que ce sont des attroupements qui n'ont pas de but, c'est-à-dire que la foule n'a absolument aucune espèce de volonté. Et une toute petite organisation, je sais pas, de 10 personnes qui sont coordonnées, peut encadrer 2000 personnes sans aucune difficulté et les faire aller d'un point A à un point B, déployer une banderole en tête de cortège et annoncer des revendications. Et les 2000 connards qui en ont manifesté ne savent même pas ce qu'ils foutent dans la rue. Ils sont juste contents d'avoir séché le cours de la journée, quoi. Mais ceux qui les manipulent, eux, savent pourquoi. Vous voyez ? Et donc, et c'est parce que nous n'avons pas d'opposition réelle dans tout cet enseignement supérieur, en tout, pas partout, mais je veux dire, dans ces facs-là, mais je pense que de toute façon, ça sert même à rien à ce stade, sauf peut-être les facs de droit, quelques facs comme ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'opposition qu'ils peuvent faire tout ce cinéma. Et si, en fait, le cas de Montpellier se réitérait à chaque fois avec l'appui de personnel enseignant qui était conscient de ce qu'ils jouent et qui défendait leurs étudiants, je vous assure que les gauchistes seraient brisés.
Bah, totalement. Mais tu sais, moi, j'ai souvenir, quand tu racontes ça, enfin, les manifestations... j'ai souvenir des journées de 2002, et moi j'étais pas étudiant, j'étais lycéen à l'époque. J'étais déjà évidemment, j'avais un respect souverain pour Jean-Marie Le Pen. Bon, maintenant ça, c'est plus la même chose, mais j'ai vu ça. J'ai vu des types qui ne savaient même pas qui était Jean-Marie Le Pen, qui était Jacques Chirac. Allez, mais vraiment. Marcher, mais savait même pas ce qu'il faisait pour aller acheter des bières et se poser sur une pelouse avec trois gonzesses. Ouais, et devant, il y avait quoi? Devant, t'avais, allez, un ou deux mecs malins qui réellement, après, ont fait carrière politique, quatre ou cinq suiveurs qui étaient des branlos, mais tout le reste de la masse ne savait même pas ce qu'ils étaient en train de faire.
Ils en savaient rien, rien du tout. Mais ils étaient encouragés à le faire. Tu te rends compte, il y avait tout le monde leur disait « Allez, allez sécher, allez boire des bières, allez, allez sur les pelouses avec vos copines. Vous verrez, c'est bien, on vous l'accorde, il n'y a pas de problème. » Mais maintenant, il n'y a plus ça. Je pense que ça va être de moins en moins possible, à part éventuellement dans quelques lieux très à gauche, parce que tout simplement le niveau des, on va dire des agitateurs gauchistes, s'est effondré. Oui. Et ces gens n'ont plus de charisme. On recrute vraiment ces mecs dans le fin fond des chiottes. Et même un type comme comment s'appelait-il celui qui organisait le CPE, qui est devenu l'espèce de fiotte immonde.
Il est à la mairie de Paris, lui, celui-là.
Ouais, Julien... Julien comment ?
Pas Julliard ?
Julliard, voilà, Julliard. Julliard, ouais. Bah même un Julliard, qui est vraiment, qui est vraiment le niveau zéro de l'échelle de l'humanité, on peut même plus recruter un type comme ça chez les gauchistes.
Bon, je vous propose de faire une pause musicale, maintenant, et on se retrouve tout de suite après.
Tiens, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Pour les Alsaciens, les Suisses, les Lorrains. Pour les Belges, on n'a plus, pour les Belges, on n'a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, on n'a plus, pour les Belges, on n'a plus. Ce sont des tireurs au cul. Sortez-y pour dire, nous sortez la scarte et dit, pas sortez-nous. Nous avons souvent notre.
Voici pour cette deuxième partie de démocratie participative. Alors, avant d'entamer la discussion de cette semaine, qui va tourner en fait autour de l'attentat de... Il n'y a pas que ça, mais c'est le point de départ de la discussion, quoi, l'attentat de Trèbes, près de Carcassonne. C'est l'invasion de la nécropole des rois de France à Saint-Denis par 80 clandestins aidés... du député d'ailleurs Coquerel de la France insoumise soumise à l'islam surtout j'ai l'impression de Mélenchon. Alors je vous cite l'article du Parisien hein. Donc le collectif coordination des sans-papiers donc du 93 hein, a investi le lieu de culte pour protester contre le projet de loi asile immigration du gouvernement. Ils ont été évacués par les forces de l'ordre. Environ 80 personnes ont investi la basilique de Saint-Denis ce dimanche vers 15h en soutien aux migrants et sans-papiers. Le collectif coordination des sans-papiers a déployé une banderole pour dénoncer le projet de loi asile immigration porté par le gouvernement. Ils ont été très respectueux, hein, je cite, hein. Ils ont fait du bruit, c'est tout, il n'y avait aucune agressivité, a confié un salarié de la basilique. Ah bah oui, n'oubliez pas que le clergé catholique collabore activement à la destruction de la chrétienté en France ou de ce qu'il en reste au profit de l'islam. Hein, ça va sans dire, mais c'est quand même bien de le préciser. Après plus d'une heure, les manifestations ont été évacuées par la police. Un homme qui s'opposait à l'entrée des fonctionnaires a été arrêté. Le cortège s'est alors rendu devant le commissariat en présence du député Éric Coquerel, donc mélenchoniste. Suite à l'incident, la basilique a été fermée vers 17h30 sous la vigilance d'un fourgon de police pour s'assurer que les manifestants ne reviennent pas. La messe du dimanche soir a été annulée, donc c'est bien, hein, profanation, on interdit l'office, enfin on rend impossible l'office, bon voilà, tout se passe bien. Une heure après l'évacuation, Carole et Frédéric, ressortent de leur visite, décalée après l'intrusion des manifestants. On a vu deux troupes, oui ça c'était deux personnes qui étaient présentes sur les lieux, on a vu deux groupes arriver en courant de chaque côté de la basilique. Ils sont rentrés directement sans que personne n'ait le temps de réagir, raconte Carole. Le couple est parti se balader après l'arrivée de 7 fourgons de police. Une heure après, on est revenu et les manifestants se dispersaient sur le parvis, indique Frédéric. On a enfin pu entrer. Donc je présume qu'ils voulaient se rendre tout simplement à l'office religieux. Alors, les images. Bon, il y a des images d'évacuation. On voit les flics. Les flics ont réagi très très vite. Hein. Moi, j'étais, c'est quand même bien. Hein. J'étais même bien content de voir les flics arriver là. On critique souvent la police, mais quand les ordres sont bons, en fait, la police sait se montrer. Et puis là, j'ai senti qu'il y avait de l'allant chez nos amis policiers. Là, ils ont mis du cœur. Hein. J'ai trouvé que là, il y avait vraiment il y avait de la conscience professionnelle dans ce qui se passait. Là, il y a des belles scènes de ça. Et alors, il y a de tout. Hein. Il y a des mouquers en tchador, des nègres. C'est incroyable. Et il y a Coquerel qui est comme un hystérique là au milieu. Là, je pense qu'il se prend pour Jésus. Hein. Et là, au milieu de toute cette faune. Et alors, il est tout content, voilà, il est venu apporter toute cette immonde crasse du tiers-monde dans la nécropole des rois de France. Hein. D'ailleurs, dans la droite ligne des sans-culottes de 93 hein, qui ont profané tout ça. Et ensuite, sur Twitter, on a vu Clémentine Autain dire qu'il n'y a pas eu de profanation parce qu'il n'y a plus d'ossements dans la basilique. Alors, avant de vous donner la parole, je précise, précision historique. Effectivement, les sans-culottes de 93, donc les égorgeurs de 93, ont effectivement vidé les sépultures des rois de France, ce qui d'ailleurs est dramatique du point de vue de l'histoire française. Donc on voit d'ailleurs la vraie nature de la Révolution française à cette occasion-là. Les corps, enfin les plus exactement les dépouilles des monarques, avaient été rassemblées dans des fosses communes et recouvertes de chaux, non sans avoir été d'ailleurs exposées au public de l'époque, mais à la Restauration, la monarchie française avait fait ramener en fait les dépouilles dans la basilique. Simplement, on ne pouvait pas distinguer en fait les corps les uns des autres pour des raisons évidentes, surtout aujourd'hui. Enfin, il n'y avait pas d'analyse génétique à l'époque, vous pensez bien. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une sépulture commune dans la basilique où se trouvent effectivement tous les rois de France. Et il faut bien comprendre que y a Louis XIV, etc. Ils ont pris la dépouille de Louis XIV pour l'exhiber. Enfin, c'est quand même affligeant hein, ce qui s'est passé à l'époque. Donc il y a bien les dépouilles des rois et des reines de France, et d'autres d'ailleurs, hein, ou de grands serviteurs de la France. Il y avait du Guesclin aussi. Bon, il y en a d'autres. Hein, bon. Et donc c'est bien une sépulture royale. Toujours aujourd'hui.
Je trouve que c'est véritablement ce genre de démonstration une aubaine pour nous, parce que ça nous sert véritablement d'argument. C'est-à-dire que quand on parle aux gens, on se rend bien compte que des fois, les gens ne comprennent pas que ce qui prime, c'est la race. On va toujours nous casser les noix avec la culture, la civilisation et compagnie, sachant que bon, les gens ne comprennent pas que race et civilisation, culture, tout ça, hein, participent l'un de l'autre. Mais quand ils nous disent « oui, mais bon, si ça s'assimile, machin », bon ben voilà, en fait, il faut simplement leur dire voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire, ton assimilation, tu peux t'accarrer dans l'oignon, il n'y en aura pas. La seule chose qui va se passer, c'est que tout ce que tu tiens pour sacré, tout ce que tu apprécies dans ta civilisation européenne, tout ce que tu apprécies dans ta culture, ça va partir aux chiottes avec ce tsunami de nègres et de boucaques dans notre pays. Voilà. Et ça, c'est véritable. Ça, c'est génial. Parce que finalement, ça représente quoi pour eux, la basilique des rois de France? Rien du tout. Au contraire, ça représente ce qui était avant eux. Donc, comme les révolutionnaires l'ont fait, et comme Daesh l'a fait, tout ce qui était français, tout ce qui était cocardier, pour citer notre ami BHL, ça partira à la poubelle. Donc, oui, utiliser sans modération.
Bah, ça fait partie du projet revanchard, qui consiste à systématiquement effacer... Enfin, détruire complètement l'histoire de tes ennemis, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as des troupes qui sont des troupes d'invasion, qui débarquent sur un terrain qu'on leur a ouvert, et on leur dit banco, carte blanche, allez-y, faites-vous plaisir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça a pris un petit moment hein, avant d'en arriver vraiment à ce point-là, mais là, on en est vraiment à la destruction des symboles historiques, etc. Enfin, c'est comme les talibans qui font péter les statues. C'est la même chose à l'échelle de la France. Donc, les juifs sont très contents, évidemment. Hein, c'est un petit peu leur, leur spécialité de nous raconter des histoires et effacer celles de des pays qu'ils dominent. Et là, on va faire vraiment le sale boulot, c'est-à-dire l'invasion de la nécropole des rois de France par des sales métèques du tiers monde. Qui n'ont pas de sens. Ces gens-là n'ont qu'une envie, c'est de voir disparaître ça. C'est-à-dire l'existence de choses comme ça, de monuments, des cathédrales, etc. Bon, déjà pour eux, alors il y a le symbole des croisades, tout ça. Et puis c'est simplement le rappel permanent, l'existence de ces choses-là, que ce sont des peuples inférieurs, que ce sont des sales métèques sortis des sables qui ne servent absolument à rien, qui n'ont rien été capables de produire. Et donc, évidemment, tout ça doit disparaître. C'est-à-dire, à mesure que, à soi, leur domination politique, ou simplement dans la rue, via la démographie, etc., toutes ces choses-là, tout ce qui est vestige de la culture française, européenne, au sens large, doit disparaître absolument. Et ça sera fait. C'est-à-dire, si la vapeur ne s'inverse pas plus ou moins rapidement, ça sera fait. Tout sera détruit.
Et alors, MacDav.
Moi, il y a un mot qui m'a fait marrer, c'est Clémentine Autain qui ne reconnaît pas le terme de profanation. Alors, si je ne
pas croyant
pas,
déjà.
Moi, ouais, alors, déjà, tu vois, effectivement, mais si tu vois des identitaires avaient mouillé des tapis de mosquées, même pas de mosquées, hein, de construction de mosquées. Je suis pas persuadé qu'elle aurait eu des réticences à utiliser le terme profané. Elle l'aurait fait sans aucun problème. Donc c'est juste ce qui m'avait fait vraiment très marrer.
Il y a un exemple là-dessus qui a été levé par Pierre Sautarel de F de Souche. Il en a parlé sur Twitter, j'ai relevé ça. Il a fait observer que les décodeurs du Monde et Samuel Laurent, cette espèce de petite blatte infecte, donc il fait son boulot de mouchard politique, hein, c'est ça son job, expliquait que le mot profanation était déplacé. Et alors, Sautarel déterre, lui ou des gens autour de lui, quoi, déterre un article du Monde vieux d'il y a quelques mois, je crois que c'est il y a quelques mois ou il y a un an, un truc comme ça, dans lequel il hurlait contre une profanation parce qu'il y avait, je sais pas quoi, un truc avec une mosquée, je ne sais quoi. Et donc, il faisait un copier-coller des deux articles et il démontrait par A plus B que les types étaient vraiment des gens d'une mauvaise foi, mais insigne, quoi, et qui prétendaient, éclairer le public sur la réalité de voilà je sais pas quoi et bref c'était du flan. Alors il faut faire un parallèle avec ce qui s'est passé avec les identitaires. Oui, alors il y avait l'action donc de Poitiers où ils avaient déployé une banderole, je ne sais plus exactement quel était le slogan, peut-être quelqu'un me le rappellera, mais enfin bon, voilà, c'est une action spectaculaire qui visait à s'opposer à l'islamisation de Poitiers. Poitiers, ville éminemment symbolique, on parlait d'histoire, bah c'est évident, c'est là où Charles Martel stoppé, les raids musulmans sur la Gaule, et c'est là que le reflux islamique a commencé. Parce que c'est aussi l'histoire qu'on n'explique pas, dont on n'entend plus parler aujourd'hui, c'est qu'il y a eu déjà une tentative islamique de conquérir l'Europe par l'Espagne et ensuite la France, et que ça s'est réglé les armes à la main, et qu'il a fallu les combattre sans cesse pour les déloger. En réalité, ça a toujours été comme ça le rapport avec eux, et c'est pour ça que vous voyez d'ailleurs, on parlait de destruction physique ou de volonté de souiller physiquement en fait les symboles qui sont des nécropoles, des chapelles, qui rappellent l'histoire dans le temps long de la France. Mais il y a aussi simplement l'histoire tout court, c'est-à-dire l'écriture de l'histoire, l'écriture des faits. Et vous voyez un travail qui est mené constamment par notamment les marxistes de l'université française pour dire mais non, bataille de Poitiers, mais non, c'est une escarmouche, on n'est pas bien sûr. Puis en fait, peut-être qu'il s'est vraiment rien passé. Etc. C'est toujours pour dire non, en fait, il n'y a pas de confrontation avec les musulmans, tout se passe bien, vous voyez. Donc il y a cette réécriture, en fait, pour légitimer le présent. Et quand ils ont fait cette action à Poitiers qui tombait sous le sens historique, c'est-à-dire que ça voulait dire qu'ils avaient la mémoire longue.
La prison avec sursis, non ? Ou plus, je sais plus.
Ah oui, non, mais attends, des contrôles judiciaires extrêmement longs pendant 2 ans. Les contrôles judiciaires, c'est que tu vas pointer toutes les commissaires commissariat ou à la brigade de gendarmerie de ton coin, où voilà, tu dis voilà, je suis à domicile, c'est interdiction, je crois, me semble-t-il, de quitter le département, des choses comme ça, interdiction de se rencontrer, donc leur liberté de s'associer politiquement était interdite. Enfin, c'est vraiment les violations des libertés les plus fondamentales. Hein. Et donc procès au final assez tard. Il s'est conclu, je crois, en 2017, je crois, d'ailleurs, ce procès. Et voilà, enfin, ça a été un truc qui a traîné. Ils ont pris des peines de prison avec sursis, mais quand même significatives. Ils ont pris des peines d'amende, etc. Le crime, c'était quoi? C'est d'avoir pénétré sur un chantier, d'avoir déployé une banderole. Bon, c'est même pas une profanation au sens strict, puisque le lieu ne fonctionnait pas. C'était pas un lieu qui était consacré ou quoi que ce soit. C'était un chantier. Bon. La nécropole, qui est quand même autre chose qu'un chantier de mosquée à Poitiers, on est quand même d'accord, la nécropole des rois de France est envahie par des nègres, musulmans, des femmes voilées, elles n'ont même pas le droit d'être voilées en public d'ailleurs comme elles l'étaient, hein, c'était des tchadors, etc. C'est, rien que ça, en soi, ça devrait être poursuivi. Ils font l'agitation, il y a un député à la tête, rien. C'est-à-dire que, bon, on les a virés quand même, avec une certaine célérité, mais il n'y a rien eu. Je veux dire, vous avez entendu de parler que Coquerel a été placé en état d'arrestation, de machin, non, rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a carte blanche. C'est-à-dire que voilà, bon, vous dégagez, et puis c'est tout. Et si vous êtes un identitaire qui ne violait même pas, en fait, en réalité, le terme de la loi, quoi, je veux dire, à part peut-être pénétrer sur une propriété privée, encore à voir, là c'est le grand show, etc. Donc, c'est là qu'on voit que nous sommes effectivement, dans, d'abord, nous sommes actuellement dans une république marxisée à outrance, marxisé, maçonnisé à outrance, bien évidemment, mais qui devient de plus en plus islamique. Et ça se traduit dans les décisions de justice et dans le comportement des pouvoirs publics. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ne vont pas chercher les clandestins, surtout s'ils sont musulmans. Ils ne vont pas chercher les marxistes. Rappelez-vous, enfin là, quand on a écouté là, le doyen de la fac de Montpellier, il a dit, j'ai appelé les flics pour les déloger. Il dit, c'est en mon pouvoir, je peux demander à la police de venir évacuer le truc. Ils sont jamais venus. C'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que les marxistes font ce qu'ils veulent, les communistes font ce qu'ils veulent, les socialistes font ce qu'ils veulent, toutes ces pourries du tiers-monde, ces Africains, ces musulmans font ce qu'ils veulent. Par contre, que 3, 4, 5, 6, 7 Français décident de défendre l'honneur de leur pays en prenant une action comme ça, qui par ailleurs est totalement, je veux dire, non létale et non violente, toute la répression s'abat. C'est clairement une justice qui est pré-islamique, quoi. C'est clairement une justice islamique. Et ça me rappelle aussi l'histoire de Christine Tazan. J'en finis, après je donne la parole à d'autres personnes. Et Christine Tazan s'est retrouvée poursuivie l'an passé, je crois, enfin en 2017, alors condamnée en première instance, mais pas en deuxième, pour avoir critiqué l'islam. Pas des musulmans. Elle avait dit, je sais plus ce qu'elle avait dit sur... oui, je crois, islam assassin, je crois qu'elle avait dit. Elle avait islam égale assassin, ou un truc comme ça.
Il me semble qu'elle avait juste dit qu'elle était islamophobe et fière de l'être.
Non, oui, elle a dit, mais je crois que ce qui lui a été reproché, c'est ça, c'est islam assassin. Et le juge, enfin, il s'est trouvé un juge pour dire, attention, non, ça c'est l'incitation à la haine, etc. Elle avait été condamnée, elle avait été relaxée, bien évidemment, en appel. Enfin, je dis bien évidemment pour le moment. Et ça montre quoi? Ça montre que vous avez des magistrats en France, maintenant, qui sont d'accord de mettre en place, sans même qu'il y ait de loi, là encore, pas encore, mais qui sont déjà prêts, intellectuellement, moralement, politiquement, à appliquer des décisions qui reviennent à des délits de blasphème. C'est clair. Ils sont déjà acquis à la cause, quoi. C'est pas qu'ils sont musulmans eux-mêmes, mais ils pensent que c'est opportun, parce que voilà, finalement, les musulmans sont des gens extraordinaires, et donc il faut leur lécher le cul, voilà. Et là, on a vraiment l'exemple caricatural de qui mène le bal en France. C'est-à-dire que les Français ne contrôlent pas leur État. Les Français ne contrôlent pas leur justice. Les Français contrôlent même pas leur police. Ils sont des spectateurs impuissants, parce qu'ils le veulent bien en partie, attention, hein. Mais ils sont des spectateurs partiellement impuissants de leur propre dépossession, et ça se met en scène chez eux. Et viens, un truc comme l'histoire de la nécropole avec des nègres qui rentrent partout avec des communistes, attendez, mais ça aurait dû déclencher... des émeutes, un truc comme ça. Mais alors vous allez me dire, ça peut en déclencher à Saint-Denis, pour la bonne et simple raison, c'est que le Saint-Denis est complètement peuplé de nègres. C'est-à-dire, c'est complètement...
dans une mosquée occupée, les émeutes, oui. Tu les as dans la seconde, hein.
Et c'est voilà. Évident. Bah rappelez-vous les émeutes de 2005.
Tout à fait.
Rappelle ce qui s'est passé en 2005, qu'est-ce qui a déclenché les émeutes?
Bah je crois que c'est une grenade lacrymo qui s'est déversée dans une mosquée, un truc comme ça.
Voilà. Et voilà. Donc, mais en même temps, attention, hein, ils défendent leur truc, je veux dire. Eh oui, c'est-à-dire qu'ils mordent. Donc, vous voyez des chrétiens se mobiliser, mais pourquoi voulez-vous que les chrétiens se mobilisent pour défendre leurs propres églises, et en l'occurrence cette nécropole, alors que les curtons qui sont devant disent non, mais ils sont extraordinaires, ils sont très gentils, ils n'ont pas agressé, j'aurais bien proposé le café, même, vous voyez.
ils étaient pacifiques, ils arrivent, ils rentrent là-dedans comme des brutes, comme des animaux, ils hurlent comme les singes qu'ils sont, mais ils sont pacifiques, voilà.
Mais il y a eu, comment dirais-je, vous avez même, il n'y a pas eu un son de l'archevêque, du cardinal, pas un bruit, rien, pas un murmure, il s'est rien dit. C'est-à-dire que vous avez un clergé, comment dirais-je, d'invertis et de sodomites, pour ne pas dire parfois de pédophiles, alors pas tous, mais au plus haut niveau, qui sont des collabos intégrales, qui veulent volontairement devenir les serpillières de toute cette purie qui vient du monde musulman, mais à commencer par le premier d'entre eux, qui est Bergoglio, je veux dire. Donc à un moment donné, il faut bien reconnaître ça aussi aux gens, c'est-à-dire que de toute façon, les premiers concernés, à savoir les autorités religieuses catholiques, ne veulent pas défendre leur propre lieu de culte. Ils ne veulent pas, ça les intéresse pas. Donc, à plus forte raison, voilà. Mais même à la limite, je vous dirais, imaginez, il y a eu le Parti de la France, je le tiens à souligner, le Parti de la France de Karl Lang s'est mobilisé, envoyé des militants sur place, ils ont fait une action de protestation en demandant l'expulsion des clandestins. C'est les seuls qui ont fait quelque chose. J'ai entendu peut-être quelques murmures sur Twitter, mais j'ai pas vu d'action de quoi que ce soit. C'est quand même normalisé, quoi. Qui d'autre là-dessus ? Sur ces marxistes agitateurs de nègres et de musulmans là, qui cherchent à tout souiller là. Non, personne d'autre ? D'accord. Alors, on va passer au sujet de la semaine, les amis. C'est bien évidemment l'attentat. L'attaque djihadiste de Trèbes, près de Carcassonne. Bon alors, tout le monde est informé de la situation. En préambule, je dirais que bon, il n'y a pas de quoi être surpris, et c'est certainement pas le premier attentat, par évidence. On en a vu quand même toute une série depuis 2015, jouer les tours, on a vu le Bataclan, Nice, vous avez eu les deux policiers qui avaient été à Magnancourt, qui avaient été assassinés, le père Hamel, d'ailleurs lui-même, un ami des musulmans, il avait même offert le terrain aux musulmans pour qu'ils construisent leur mosquée, il a été remercié. Ça c'est un exemple caricatural, voilà, c'est bon. Démonstration par l'absurde. Vous avez eu aussi ce chef d'entreprise dans la région, je crois, de Grenoble, qui avait été décapité par un soldat d'Allah, un soldat du califat. On pourrait continuer comme ça longtemps. Bon, les agressions au couteau, les tentatives, qu'on ne compte plus, hein, les gens à Allah Akbar, machin, les mecs qui prennent leur bagnole, puis pour se donner du courage, ils crient Allah Akbar. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Vous avez les deux filles qui ont été assassinées, Morane et Laura, qui ont été assassinés à la gare Saint-Charles à Marseille. Donc, bon, il y a quand même déjà du passif. Donc, on peut pas jouer les gens qui... On n'est pas surpris. Mais, il y a des choses qui se déroulent et c'est intéressant d'en parler comme point de discussion. Alors, d'abord, pour redonner un petit peu les faits, je vais citer un petit peu les témoins de l'action. Les survivants, quoi. C'est un article du Figaro qui nous replonge un petit peu dans ce qui se passe. Donc à Trèbes, à l'est de Carcassonne. Voici ce qu'on nous dit, c'est dans le département de l'Aude, si je ne m'abuse, hein, dans le département de l'Aude. Alors, un client et un vigile ont raconté les 3 heures de prise d'otage qui a eu lieu vendredi dans le supermarché situé près de Carcassonne. Leurs témoignages sont impressionnants. J'ai vu un individu très excité qui avait une arme de poing, un couteau, et qui criait « Allah Akbar ». Christian Guibert, ex-policier, a raconté à l'AFP la prise d'otage meurtrière vendredi au supermarché de Trèbes, où il a mis plusieurs clients à l'abri. Il a aussi crié aux gens qui étaient là « À terre, à terre !» Il y avait déjà une personne à terre, on a su après qu'elle était décédée, a relaté calmement ce retraité de la police. Il dit avoir entendu 5 ou 6 coups de feu tirés par l'individu. Christian Guibert, 64 ans, faisait ses courses vers 10h au Super U de Trèbes avec sa femme et sa belle-sœur quand il a entendu des détonations. « Je me suis approché pour voir ce qu'il se passait », a-t-il dit. C'est là qu'il voit le preneur d'otage, Redouane Lagdim, 25 ans, avec une arme de poing et un couteau. Il était très excité, très énervé. C'était Monsieur Tout-le-Monde, souligne ce sexagénaire de 25 ans de police. Ouais, Monsieur Tout-le-Monde, c'est un bougnoule comme tous les autres, on va dire. Il criait à la Akbar, il l'a crié à plusieurs reprises. Immédiatement, Christian Guibert a emmené sa femme et sa belle-sœur à l'abri avec les gens qui étaient à proximité. « Je les ai mis dans un frigo de boucher », a-t-il dit. « C'était un grand frigo de boucher, pour moi c'était une grande sécurité », a-t-il souligné, estimant que ces personnes qui étaient restées une grosse demi-heure, qui y sont restées donc une grosse demi-heure avant d'être évacuées. Puis il est retourné dans le supermarché et caché dans un rayon, il a appelé la gendarmerie, je leur ai dit ce qu'il se passait, j'ai donné la position du gars, ce qu'il avait dans les mains, il m'a aperçu, je pense qu'il m'a vu quand je téléphonais, a-t-il dit. Il m'a couru après avec le couteau, je l'ai semé et quand je me suis retourné, il n'était plus là, a-t-il poursuivi. L'ancien policier est alors parvenu à sortir par une issue de secours et se confier aux gendarmes. Moi, j'étais à 5 mètres de lui, a raconté de son côté un vigile du supermarché qui veut garder l'anonymat. Il m'a tiré deux fois dessus, il tirait mal, dit-il, soulignant que dans ce cas-là, on n'a pas le temps de réfléchir, vous faites demi-tour et vous partez. J'ai évacué le personnel, je les ai fait passer par derrière pour les éloigner de la zone, une vingtaine de personnes peut-être, je n'ai pas traîné, a poursuivi cet homme qui a 22 ans de métier dans l'armée. On a fait sortir des collègues et des clients par la porte de secours à l'arrière, a confirmé Jackie, collègue de travail d'une des victimes à la boucherie du supermarché. Il a été tué d'une balle dans la tête à bout portant. Cela faisait 15 ans que l'on travaillait ensemble à la boucherie. C'est un copain, un bon vivant, a-t-il ajouté. On a mal au cœur pour ces employés du Super U. C'est un traumatisme, c'est choquant. Des employés qu'on connaît depuis des années, a souligné une habituée. Donc ça, c'est... pour les faits, bon voilà, voilà, ça donne bien l'ambiance. Finalement, c'est assez, voilà, c'est assez conventionnel. Hein. Y a rien d'original là-dedans, mais bon, voilà, on visualise bien la scène, on imagine bien la panique. Le policier a fait un 64 ans et il est encore vert, hein, le monsieur. Hein, il a eu des bons réflexes. Et puis vous avez aussi, quand même très important, l'épisode assez confus selon moi parce que je n'ai pas tous les éléments. Vous allez peut-être me corriger. Donc l'épisode, en fait, de la prise d'otage qui dure, en fait. Alors, si j'ai bien compris, il y avait une femme qui restait, qui était prisonnière du terroriste, à garder sous la main. Et dehors, évidemment, un dispositif de sécurité avec des gendarmes. Il y a le GIGN. L'assaut est donné, je crois, au bout de 3 heures. Mais, un peu avant... je ne sais pas combien de temps avant, l'officier Arnaud, comment dirais-je, Beltram, lieutenant-colonel, qui est probablement en charge du périmètre, parce que le lieutenant-colonel, normalement, un lieutenant-colonel est en charge de tout un département de gendarmerie, normalement. Bon, peut-être que là, ce n'est pas le cas, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il est en charge du dispositif et décide de s'échanger avec cette femme. Ça, c'est ce que j'en comprends. J'ai eu d'autres versions qui disaient qu'il y avait aussi potentiellement deux personnes du GIGN prisonnières avec. Moi, je pars sur la version qu'il donne officiellement, c'est-à-dire cette femme-là. Il s'échange, il a son téléphone allumé avec lui, l'idée étant de permettre de savoir ce qui se passe à l'intérieur pour donner l'assaut. Et c'est quand ils entendent des coups de feu, en fait, probablement quand l'arabe décide d'abattre le lieutenant-colonel Beltram, c'est là que le GIGN donne l'assaut et l'élimine, finalement. Mais il a eu des coups de coude, je crois qu'il a été blessé par arme blanche et par balle, c'est-à-dire qu'il s'est acharné dessus, vous voyez, comme font les Arabes. Les Arabes adorent la lame, attention, hein, j'ai toujours dit ça, hein, s'ils ont une arme de poing ou un couteau, l'Arabe prend la lame. Hein. Ça vient de chez eux, quand ils sont gamins, ils apprennent à égorger les moutons, c'est à vie après. Le goût de la lame chez les Arabes, c'est inné. Et donc, torturé le pauvre lieutenant-colonel. Alors, ça, c'est ce que j'en ai compris. Donc, si jamais je me suis trompé dans la version que j'ai dite, corrigez-moi, ou s'il y a des précisions à apporter. Alors, juste sur ces faits-là, parce qu'on va continuer à en parler, enfin, il y a des choses à dire, mais juste sur cette base-là, qu'est-ce que ça vous dit, ça ? Comme j'ai dit, rien de nouveau, mais... ça peut vous parler. Alors, je vais prendre la parole de... je vais commencer avec MacDav. MacDav.
Bah, écoute, je sais pas, j'ai pas trop suivi l'affaire, mais suivant ce que tu me dis, tu veux dire que la nouveauté, ce serait pour les bougnoules d'avoir à leur tableau de chasse des cadres de l'élite de la gendarmerie française. C'est bien ce que tu es en train de me dire.
Bah, c'est une décision que je ne m'explique pas, en fait. Alors... de deux choses l'une. Bon, déjà, évidemment, il ne s'agit pas d'accabler le pauvre homme. Hein. Mais, alors, soit il a voulu sauver à tout prix cette femme et s'est exposé volontairement, et ça, c'est la version qu'on nous dit. Soit, une version alternative, mais qui n'est peut-être pas, qui n'est peut-être pas crédible, j'en sais rien, faisant état de présence de deux membres du GIGN bloqués avec l'arabe, pourrait peut-être expliquer pourquoi il a décidé de se mettre en avant, comme monnaie d'échange, pour sauver ses hommes. Possible. Mais c'est la seule version qu'on ait. C'est-à-dire qu'a priori, oui, il a voulu se monnayer contre l'autre, mais toujours en ayant l'idée de permettre de renseigner, quoi. Mais, oui, c'est ce que t'as dit.
Bah, c'est possible. C'est fortement possible. D'ailleurs, moi, ça m'étonne beaucoup qu'il ne l'ait pas fait auparavant. C'est-à-dire abattre des... Non pas de faire la... de porter terreur dans la population lambda, mais de cibler un peu plus. Alors, ils l'ont fait avec des flics, ils l'ont fait... Et maintenant, ils le font avec un officier de gendarmerie. C'est possible, j'en sais rien. Dire, le Bougnoul est quand même est très fou, très instable. Est-ce qu'il a eu ou non cette stratégie de, en fait, c'est pas qu'il s'est sacrifié pour sa cause, mais un peu quand même, en emportant dans sa tombe trois appelés français et un officier de gendarmerie. Mais je pense pas que c'était un officier du GIGN, c'était juste l'officier en charge.
Ouais, c'est un officier. Oui, c'est pas du
GIGN. Ça m'est d'ailleurs beaucoup étonné qu'un officier du GIGN soit en toute première ligne. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Non, mais il y a quand même pas beaucoup d'informations sur cette histoire. Je veux pas jouer au complotiste, mais enfin c'est normal qu'il y ait un filtrage d'informations dans ce type d'affaires. Moi, j'ai pas grand chose à en dire. Je pense pas que le Bougnoul soit en mesure de faire une opération de ce type. Je pense pas qu'on ait affaire à un type entraîné. S'il a loupé à plusieurs reprises sa cible, bon, voilà, quoi. Je pense que c'était vraiment une petite frappe. Par contre, quand j'ai vu le pédigré et la gueule du gars, là, tu dis que, ouais, des types comme ça, on en a des centaines de milliers, voire des millions dans ce pays. Avec vraiment le profil typique de la petite merde racaille de banlieue, qui petit à petit franchit les étapes, et qui devient une merde terroriste. Donc vraiment, l'islam donne à cette racaille la légitimité de la racaille. C'est vraiment de saloperie exterminée.
Fulbert, on va parler peut-être d'expérience. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette opération, enfin la façon dont le lieutenant-colonel Beltram est mort? Est-ce que ça t'interpelle?
Oui, bien sûr. Un petit instant. En fait, ce n'est pas la position d'un officier supérieur, parce que ce n'est pas rien de prendre ce rôle. Bon, il l'a pris héroïquement, très bien, mais ce n'est pas... Ça me semble, moi, personnellement, c'est quelque chose qui passe de travers. Tout ce que je vois, moi, c'est que tactiquement, c'est une erreur, effectivement, et psychologiquement, et ça c'est plus grave, c'est une défaite.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que si chaque terroriste qui se décide à agir, chaque islamiste, disons, appelons les choses par leur nom, qui se décide à agir, agit avec l'espoir d'avoir un officier, ou mieux encore un officier supérieur, militaire ou gendarme, c'est aussi l'armée, ou policier, parce que ça existe aussi, bah écoutez, il y en a des tas qui vont agir maintenant.
Ouais, c'est un encouragement, effectivement.
C'est un encouragement, c'est sûr.
Qui d'autre là-dessus, ou je passe au point suivant de la discussion?
Juste pour rebondir que la tronche du Redouane Lakim, là, est juste extrêmement commune en France, c'est-à-dire que je sais plus si c'est Hauptmann qui le disait, mais on en a par palette, hein, des mecs comme ça, c'est vraiment de la sous-humanité, et on va passer par beaucoup plus de joyeuses rencontres, n'est-ce pas, avant que ça soit purgé définitivement du continent européen, malheureusement.
Oui, alors d'ailleurs, Le GIGN hein, s'est rendu juste après dans le quartier du fameux Bougnoul là. Et ils ont été très chaudement reçus. Hein. Donc, si vous pensez que les Bougnoul sont en mode pas d'amalgame, sommes des gentils musulmans, hein, voilà, allez vous faire.
Alors, une information que j'avais loupée. Voilà, c'est comme disait Dantec, c'est un prolégomène, à la guerre civile française, mais en fait qui est carrément la guerre civile occidentale, et en tout cas pour l'Europe.
On prend ce qui se passe en banlieue de Paris. Ça fait 7 jours, oui, 7 nuits 7. Qu'il y a des émeutes, de la violence. Pouvez-vous d'abord m'expliquer comment on en est rendu là?
En fait, je vais plutôt vous dire comment on en est rendu là de la manière suivante. C'est-à-dire que là, ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on appelle un prolégomène à la future guerre civile française.
Alors parlez-moi français, par exemple.
C'est un prologue à la future guerre civile française, qui est en gestation depuis des années.
Guerre civile française,
je répète mes mots. C'est-à-dire que là, visiblement, ce qu'on appelle les forces de l'ordre républicaines sont dépassées par les événements. Le mouvement va évidemment faire tache d'huile. On commence à tirer sur les policiers à armes réelles, avec des armes de poing.
Il faut savoir
que dans toutes les banlieues, ce qu'on appelle les banlieues parisiennes, ou lyonnaises, ou marseillaises, des armes de poing de guerre, j'entends par exemple des fusils d'assaut AK-47 venant d'Albanie ou de Bosnie, sont planqués dans les caves, qu'elles attendent que le moment opportun pour sortir. Quel va être le moment opportun? Le moment où l'État républicain n'aura plus les moyens d'assurer l'ordre public. À ce moment-là, on en est très proche. Les renseignements généraux, qui est, disons, on pourrait dire la police politique française, savaient déjà que les banlieues étaient très fortement, influencées directement par un certain nombre d'imams, qui vantait le djihad.
Non, le problème, ça fait 20 ans là, que ça
tourne. Oui, ça fait 20 ans, mais vous allez voir l'accélération qu'il y a eu.
Ouais.
C'est que il y a 20 ans, il y avait déjà des échauffourées, comme on dit, entre les forces de l'ordre et les jeunes des cités en France. C'était des choses régulières. Là, ce qui a changé, c'est que les jeunes, soi-disant, des cités, qui envoient des bombes d'acide sulfurique sur les pompiers, qui tirent à balles réelles sur les policiers, ils le font en criant « Allah au Akbar ». Donc, la différence qu'il y a entre ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans et aujourd'hui, c'est qu'il y a une idéologie d'importation qui est venue se greffer sur des problèmes de délinquance, on va dire, des problèmes sociaux.
Ce qui rend la situation
d'autant plus explosive.
Allah quoi ?
Allah ou Akbar.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire Dieu est grand en arabe.
Ok.
Ok, c'est le cri de guerre du djihad.
Pour ce qui concerne l'islam, quoi, le volet islamique. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est caricatural. Et ça, ils ont. Où tu l'as lu, ça ?
Ah écoute, j'ai vu des articles de presse. Hein. J'ai vu des articles de presse avec des photos du quartier de parce que je crois que c'est un quartier de Montpellier, je crois, ou de Carcassonne, je ne sais plus.
C'est colonisé, Montpellier, c'est colonisé.
Ah ouais, non, mais attention, où effectivement les mecs interviennent et où ils ont été reçus. Je parle du GIGN, hein, ils ont été reçus à coups de caillasse, effectivement.
C'est-à-dire, ça devient la bande de Gaza.
Ouais, bah c'est tout à fait ça. En fait, c'est tout à fait. C'est le parallèle. Avec la situation israélo-palestinienne, c'est tout à fait ça.
Et il y a encore un plan, c'est que ce mec, encore une fois, c'est un mec qui est connu des services, qui est ressortissant, enfin à la base c'est un Marocain il me semble. Donc je ne sais pas ce qu'on branle, vraiment, hein, qu'est-ce qu'on fout à garder ces gens-là. On attend qu'ils explosent, on attend qu'ils tuent des Français en fait, des Blancs, hein, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi des gens qui sont considérés comme dangereux, enfin radicalisés à un certain niveau, etc., comme c'était apparemment le cas, on s'amuse à faire du babysitting. Hein, c'est-à-dire que ça devrait être envoyé immédiatement, hein, tous ces gens-là.
Alors, Captain nous dit, parce qu'on a un chat, alors, moi je me méfie toujours des rumeurs, hein, mais peut-être que la source est vérifiée, j'en sais rien. Il nous dit que la sœur du chirurgien qui a eu à prendre en charge l'officier Arnaud Beltram aurait déclaré, confié, que l'officier aurait été égorgé par le Bougnoul. Ce qui me paraît tomber sous le sens. Hein. On sait qu'il a été victime de coups d'arme blanche, mais je ne savais pas qu'il avait été égorgé. Je ne sais même pas si c'est vrai, d'ailleurs. Mais ça me semble correct. Je vous dis, c'est les égorgeurs de moutons. Hein. C'est les égorgeurs de moutons. Hein. C'est le peuple
de la... Et le compte Twitter a été supprimé immédiatement, très peu après. Donc, Bon, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible.
Oui, c'est possible. Disons qu'après après ce qui s'est passé au Bataclan, qui a été caché, mais qui a été révélé par la suite, on est quand même légitimement en droit de se demander. Hein, voilà, quoi.
Bah, de toute façon, on sait qu'il a été blessé par arme blanche, ça oui. Maintenant, la nature des blessures, ça, point d'interrogation. Mais ça, c'est les détails. Au Bataclan, ils ont fait un énorme travail de mensonge. Hein. Sur là-dessus, hein. Le monde, tout le monde, hein, ils sont tous mobilisés pour sauver leurs petits copains arabes, hein, quand même, c'est important. Et aussi, parce que c'est une chose de dire les gens ont été tués dans un attentat. C'en est une autre d'expliquer qu'on leur a coupé les couilles, qu'on leur a mis dans la bouche. Parce que ça révèle tellement ce que ces gens ont dans leur...
cette race. C'est le vivre ensemble, hein, en application.
Ah, non, mais c'est même pas ça. C'est-à-dire que les mecs voient, en fait, à l'occasion de ces trucs-là, ils voient, en fait, le fond de ces gens-là, en fait, ce qu'ils ressentent, en fait, pour les populations européennes, occidentales et françaises en l'occurrence, quoi. Enfin, françaises ou belges, parce que c'est très interconnecté, là, tous ces réseaux. Il n'y a pas vraiment de distinction entre la Belgique et la France pour les réseaux islamistes. Et donc, ils montrent qui ils sont, tu vois. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont rentré en permanence, vous savez, des regards agressifs qui vous portent en permanence, ils vous dévisagent, etc. Les prétextes pour déclencher des agressions, pour des cigarettes ou autres. En fait, quand vous les laissez vraiment en roue libre, c'est-à-dire que quand ils se libèrent totalement de toute forme d'inhibition, ils vous montrent ce qu'ils ont au fond d'eux et ce qu'ils veulent vous faire. Et en fait, oui, ce qu'ils veulent vous faire, c'est vous taillader, vous couper les burnes, vous les foutre dans la bouche, vous plomber, etc. Voilà, ils veulent vraiment. Enfin, vous savez, c'est pas juste tuer quelqu'un, je veux dire, de manière professionnelle à Breivik, vous voyez. C'est pas, voilà, je me suis fixé une cible, hop, je prends un flingue, je tire une balle, paf, 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 voilà.
C'est point vraiment barre, la pure rage bougnoulique, sadique, ouais, voilà. Voilà, quoi.
C'est-à-dire qu'il faut, en plus, le sévice, la torture, qu'il y ait la souffrance, le plaisir à regarder les gens souffrir, abîmer le corps. Etc. Vous voyez, il y a ce plaisir-là qu'on retrouve chez ces gens-là, que tu ne retrouves pas chez Breivik, parce que Breivik, alors, on n'appelle évidemment pas au terrorisme ici, c'est très clair, mais je décris simplement l'attitude, et l'attitude de Breivik, bon, c'est celle d'un mec qui est en mission, il se dit, voilà, moi j'abats des cibles, exactement comme vous avez des commandos, alors là, c'est du terrorisme, donc c'est un peu différent, mais voilà, il considère des cibles, et il les abat, mais point barre. Là, en fait, à la limite, s'il n'y a pas les sévices, l'arabe n'est pas intéressé, j'ai presque envie de dire. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il y ait le côté crade, il faut qu'il y ait les coups de lame, et ça traduit qui sont ces gens psychologiquement, quoi.
Des putains de pillards du tiers-monde.
Alors, puisqu'on parle de Radouane, l'Akdim de machin, là, et puisqu'on parlait quand même, parce que faut quand même un peu poser la question du rôle du gouvernement, des autorités politiques. Parce que ils sont tous là, et ils se précipitent tous au pied des victimes. Ils vont nous faire un numéro, ils vont faire des funérailles, bien évidemment au lieutenant. Il y aura Macron. Enfin, il y aura tout le grand truc, comme à chaque fois. Bon. Et du coup, ça, à chaque fois, ça marche à chaque coup. C'est-à-dire que les mecs, ils organisent des funérailles, ils se présentent. Du coup, personne n'ose leur rien dire dans ce cadre-là, évidemment. Sauf que c'est quand même les mecs qui sont les décisionnaires. Alors, venons-en au fond. Là, je cite un article de 20 minutes. Le tireur présumé n'était pas inconnu des services de police. Bon, il est présumé, il n'est pas présumé, c'est lui. Hein. Qualifié de petit délinquant par le ministère de l'Intérieur, lors d'une conférence de presse, Radouane Lagdim était connu pour des faits de droit commun. Selon le procureur de la République de Paris, François Molin, il a été condamné à un mois de prison avec sursis en 2011 pour port d'armes prohibées et à un mois de prison en 2015 pour usage de stupéfiants, notamment. Hein, peine qu'il a effectuée en 2016. Il était également fiché S depuis 2014, donc il était considéré comme radical, en raison de sa radicalisation et de son appartenance à la mouvance salafiste. En 2016 et 2017, il fait l'objet d'une surveillance rapprochée qui n'a pas permis de mettre en évidence aucun signe précurseur de passage à l'acte terroriste, dit donc le procureur. Ce ressortissant marocain a été naturalisé en 2015, soit après son fichage comme élément radicalisé. Moins d'une heure après l'assaut du GIGN, l'organisation terroriste État islamique a revendiqué l'action, etc. etc. Alors, ça je crois que c'est le truc, enfin, je veux dire, qui est accablant pour ce gouvernement, mais alors là, tous les gouvernements confondus, toutes les présidences confondues, c'est vrai, de Sarkozy, on voit bien, il était déjà actif sous Sarkozy, sous Hollande, qui l'a naturalisé, et sous Macron.
Ouais, on n'a rien vu, t'es pas au courant. Non. Alors là, c'est très inquiétant, j'aime autant vous dire. Pourquoi ? Parce que si un type comme ça, qui, entre nous soit dit, est vraiment, je veux dire, c'est vraiment un second couteau, le mec, hein, passe à l'acte sans que les types soient capables de l'analyser, ça veut dire que tous les mecs de son calibre sont capables de passer à l'acte sans se faire repérer. Donc, et alors, dans ce fichier en question, parce qu'il y a plusieurs fichiers, il y a les fichiers S et il y a les fichiers suspectés de terrorisme, deux fichiers distincts. Alors, il parle de fiche S, mais je l'ai vu être dans un fichier spécifique pour les terroristes, qui est distinct, et qui concerne à ce jour 19 000 candidats. Hein. En France, il y a 19 000 personnes qui sont considérées comme des terroristes potentiels, hein, et dans leur très grande majorité, des musulmans. Hein. Ensuite, vous avez les fichiers S, mais les fichiers S, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire, un syndicaliste un peu énervé, il a une fiche S, par exemple. Donc, parce qu'il
y a 16 ouais, catégories de fiches. Et c'est pas en fonction de la dangerosité, hein.
Non.
C'est pas parce que t'es 1 que t'es gentil et 16 que t'es le diable. Moi, tu vois, sur France Culture, je n'écoute pas ça attentivement, hein, mais je peux l'entendre, malheureusement. Il y a Farad Grosso Cavard. Bon, je ne sais pas d'où vient ce métèque, mais je pense pas qu'il vienne du Berry. Qui a dit le profil du preneur d'otages de Trèbes correspond à celui des djihadistes en Occident, fruit de l'urbain djihadogène. C'est-à-dire que c'est la ville française. Non mais, hey, maintenant, on arrive à te payer des sociologues bougnoules qui vont t'expliquer qu'en fait, hein, le djihad en France, les bougnoules qui égorgent les gens dans les supermarchés à coups de couteau, c'est à cause de l'urbain djihadogène. C'est-à-dire, hein, pour faire clair, des HLM financés par la CAF, les APL, le RSA et tutti quanti. Hein, franchement, ce pays marche sur la tête.
Alors que dans les pays arabes, pays musulmans en général, hein, les pays arabes, eux, ne sont pas du tout djihadogènes, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de problème, tout se passe bien, c'est la paix, la bonne humeur, etc.
Non mais du coup, ça rejoint la polémique sur les... sur les agressions dans la rue, là, où ils avaient soulevé le problème de la taille des trottoirs.
Ouais.
Donc je crois qu'on tient quelque chose, là.
Quand tu veux pas déplacer l'arabe, c'est la rue qu'il faut déplacer, tu comprends? Et c'est un peu le problème en France. C'est-à-dire
on peut pas déplacer les arabes, alors faut bien faire quelque chose.
Voilà, donc on va déplacer les Français, et c'est ce qui est en train de se passer, d'ailleurs. Et donc voilà, on est là-dedans. Alors, à noter, et ça c'est marrant, et ça c'est le point de connexion intéressant avec le lieutenant-colonel Arnaud Beltram, qui est, on en a parlé avant l'émission, alors Porovitch nous a rejoint, vous l'avez remarqué, vous l'avez entendu, mais je le précise, c'est, et on va en finir là-dessus pour la discussion de cette émission, c'est l'offensive dans les médias contre les écoles préparatoires de Saint-Cyr, mais plus généralement contre les écoles qui forment en fait les officiers de l'armée française. Et c'est cocasse, enfin cocasse, c'est pas vraiment le terme, c'est intéressant de voir que l'événement qui vient de se dérouler implique un officier de Saint-Cyr.
Oui, c'est marrant parce que c'est comme si les juifs, hein, s'étaient rendu compte que « Ah merde, il y a Saint-Cyr, ça peut produire des gens qui ont un peu de courage », alors même si effectivement c'était peut-être pas la meilleure idée, ce sacrifice, etc., mais n'empêche que ça a produit quelqu'un qui avait un certain courage, etc. Alors là, évidemment, tout de suite, ça panique. Hein. On se dit, oulala, il faut tout de suite arrêter ça, remplir ça de bougnoules, de féministes, de je ne sais quoi, enfin bon.
Bah, l'offensive, elle est venue de Libération, qui appartient à Patrick Drahi, bon, voilà, milliardaire qu'on connaît, et donc c'est lui qui a lancé l'offensive contre Saint-Cyr, avec Libération, mais immédiatement repris par 20 minutes, 20 minutes qui appelait carrément, voilà, il disait, nous voulons des témoignages, etc. Alors, les accusations, évidemment, vous les connaissez, racisme, xénophobie, misogynie, homophobie, bon, là...
Ils appellent à la délation, n'est-ce pas,
hein? Oui, ils appellent à la délation. Alors, évidemment, vous dites à des bougnoules, hey, bougnoule, tu veux pas me raconter des sales histoires sur des sales blancs racistes, machin truc? Oh, bah, le bougnoule, il va se faire prier, pensez bien. Bien sûr qu'il va se faire prier, bien sûr. Alors, je vous passe l'article de Libération, parce que ça prendrait trop de temps de le lire. Ceux qui veulent prendre connaissance de cet article peuvent en prendre connaissance. Alors c'est vraiment une affaire. Voilà, ils disent voilà, il y a du truc, il y a du bolossa, enfin pas du bolossa, du bizutage, enfin des trucs vraiment anecdotiques. Mais quel est l'objectif derrière? C'est vraiment de détruire l'armée française. Mais à sa tête, j'entends.
Alors, enfin, quand il a... détruire ce qui reste, tu veux dire.
Détruire ce qui reste. Parce qu'évidemment, dans le recrutement, parce que le gouvernement républicain se méfie beaucoup de l'armée. Et plus ils voient l'invasion progresser, qu'ils organisent, hein, plus ils se disent, bon, on a bien besoin d'une armée, c'est-à-dire d'une garde prétorienne pour garder nos coffres et quand même tenir en respect la foule des Français, quoi. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait un sentiment patriotique, parce que, comme disait, Beaumarchais, on peut faire beaucoup de choses avec une baïonnette, mais on ne peut pas s'asseoir dessus, quoi. Donc, il y a un problème avec cette armée, c'est que si elle est encore trop française, trop gauloise, elle risque d'être piquée par des réflexes patriotiques. Alors, moi, je ne suis pas dans le fantasme de l'armée putschiste, hein. Ça, j'y crois pas du tout. En revanche, une armée peut recevoir l'ordre de tirer sur la foule si la situation devient vraiment tendue et peut dire, bah en fait, un peu comme en 1789, quoi, dire, oh là, nous on tire sur personne, vous démerdez. Et alors là, vous êtes obligé d'appeler des troupes étrangères, bon ça c'était en 1789, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que l'armée française, bon, vous voyez que le recrutement change beaucoup, on met du musulman, on recrute de l'africain, etc., mais on met beaucoup d'arabes là-dedans. Alors, je sais pas.
Il faut mettre effectivement les femmes, hein, tu vois, les femmes, il faut les mettre en avant.
On met tout ça. Et alors, maintenant, ils veulent attaquer les officiers, le corps des officiers. C'est-à-dire ceux qui donnent les ordres en réalité, enfin ceux qui sont censés les appliquer ou pas le moment opportun, les appliquer. Et ils ont clairement compris que là-dedans, c'était encore trop français, c'était encore trop patriotique. Et que, alors que bon, on peut pas suspecter, quoi, je veux dire, l'armée française d'avoir des velléités putschistes, quoi, je veux dire, mais c'est trop. Et comme ils ont déployé l'armée quand même pour quand même un peu protéger les secteurs un peu stratégiques en France, bon.
C'est-à-dire les synagogues.
Quelques points, voilà, un peu Notre-Dame, mais bon, les églises en général, non. D'ailleurs, vous avez vu, il n'y a pas d'armée à côté de la nécropole de Paris, hein. Vous pouvez arriver avec des bouillous, les musulmans, là, tout se passe très très bien, hein. Bon, je sais pas si c'est possible de faire la même chose dans une synagogue en France.
Je crois qu'il y a un record, hein, tous les ans, de profanation, d'église.
Ah oui, oui.
Et moi qui ne suis pas particulièrement très christianophile, de toute façon, enfin, ça fait partie du patrimoine français et on voit bien que de plus en plus on démolit, on pisse sur absolument tout et n'importe quoi. Donc,
ah non, mais ça n'a rien à voir, Frédéric. Ce sont des cimetières laïques, voyons.
Ah oui, il y a cette lutte pour ils veulent les cimetières laïques maintenant. Bah, comme l'avait bien dit De Villiers, pour une fois, il dit plein de stupidités, mais des fois il dit des choses justes. Il dit bah voilà, vous avez la gauche laïcarde détruit d'une main. Détruit le christianisme d'une main et aide l'islam à progresser de l'autre. C'est absolument évident, quoi. Et alors, pour en revenir à cette offensive téléguidée, évidente, qui cherche à démoraliser d'abord le corps des officiers, à légitimer aux yeux de l'opinion publique des mesures de destruction de ce corps par infiltration. Alors là, on va vous mettre des quotas de nègres, etc. Là, il faut et des musulmans, hein. Et les frères musulmans doivent être pas loin. On va pas tarder à en coller à droite à gauche là-dedans pour aller moucharder. Et comme je dis, c'est la dernière phase. Et le but, pour moi, à mon sens, hein, c'est comme ça que je vois, c'est qu'ils veulent une garde prétorienne dont le recrutement sera à terme à 50%, 60%, 70%. Arabo-nègre, voilà, vraiment la soldatesque, qui n'aura absolument aucun remords, mais même qui va prendre plaisir à tirer sur des attroupements de Français. Voilà, les mecs, ils n'auront aucune question à se poser, et dont, en fait, les officiers, les meilleurs, auront été, isolés, découragés, cassés, voilà, et remplacés par des métèques, hein, le grand remplacement, et l'armée française, en fait, ne sera même plus française, en fait. Et elle aura une seule fonction, c'est de tenir en respect le peuple pour éviter qu'en cas de trouble, hein, quand même de plus en plus inévitable selon moi, voilà, qu'il y ait un réflexe patriotique. Moi, je vois ça comme ça.
Ouais, non, mais c'est évident. D'ailleurs, ça s'est produit historiquement de très très nombreuses fois. Enfin, tu dois te souvenir de l'affaire des fiches, où effectivement, la gauche, faut pas la franc-maçonnerie, tout court, à bloquer l'avancement militaire des officiers jugés trop catholiques. Et ça, c'est très fréquent. Et effectivement, c'est juste évident. Parce qu'il y a malgré tout une très vieille tradition française qui veut que l'aristocratie catholique rejoigne par tradition Saint-Cyr. Et c'est... Enfin, tu vois, on peut chier un peu sur, sur ce qu'est l'aristocratie française, avec son système de caste, tout ce qu'on veut. Mais malgré tout, le meilleur moyen pour un jeune blanc qui veut grimper socialement, s'il a le mérite, s'il a les capacités physiques, intellectuelles, je veux dire, intégrer Saint-Cyr, tu vois, c'est quand même une bonne façon de grimper socialement et de te créer une place. Et ça, effectivement, ces places, elles vont être données aux femmes, de plus en plus, et aux nègres. C'est une évidence, parce que il va falloir adapter la troupe, enfin plutôt je dirais adapter les officiers à la troupe, à la nouvelle troupe, qui est une troupe, enfin du moins pour certains régiments, une troupe halogène. Et tout le monde sait que l'autorité, c'est une autorité raciale. Voilà, tu peux dire ce que tu veux, tu ne feras pas marcher au pas des vieux loubards blancs légionnaires, enfin même issus d'Europe de l'Est, derrière un lieutenant qui a eu, comme dirait Derek, 14 en dictée quand il avait 5 ans. Tu vois, ça marchera pas. Donc il va falloir faire un petit peu de management politique d'une part et ethnique d'autre part dans l'armée française. Jusqu'au plus haut niveau.
Faut souligner le rôle de d'épuration qu'a mené Le Drian à plusieurs reprises. Il a écarté Lugan, je crois, de Saint-Cyr, me semble-t-il.
De l'école d'application des officiers, oui, tout à fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, il a, parce que pourquoi, voilà, mais c'est clair. Enfin, je veux dire, l'agenda, il est clair. Il avait fait encore un autre coup, d'ailleurs, quand il était ministre de la Défense. Enfin, je veux dire, il n'a pas arrêté de faire des coups. C'est-à-dire que toujours cette vieille gauche puante, destructrice, qui veut absolument tout saloper, dont on voit les effets dont on a parlé durant toute cette émission et dans toutes les autres émissions précédentes, ils sont déjà à la phase suivante, la phase ultime. Je ne sais pas s'il y aura d'ailleurs une résistance au sein de l'armée française. De Villiers, il a toussé un peu pour des histoires d'argent. Ben, je veux dire, là, franchement, les histoires de budget, c'est bien, mais enfin, c'est vraiment secondaire quand on voit ce qui se passe en France. Enfin, moi, je veux dire, un officier qui dit, officier supérieur, enfin, qui commande l'état-major, il dit, moi, je démissionne parce que j'ai pas mes crédits. Bon, d'accord, les crédits, ça compte, il n'y a pas de souci. Mais enfin, c'est pas ça qui me saute aux yeux en France. Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est l'invasion totale du pays. Enfin,
il aura ses crédits, mais il aura aussi des bougnoules. Alors là,
Mais voilà, c'est fou, quoi. Je veux dire, d'après vous, aujourd'hui, enfin, je sais pas, sur tous les connétables de France de l'histoire, s'ils voyaient la France aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils seraient en train de parler d'argent ou ils diraient, mais il faut foutre les bougnoules dehors? Je veux dire, c'est. Duc et Clin, s'il revenait, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, les gars, où sont mes sous? Il dirait, mais non, mais attendez, il faut foutre tous ces Arabes dehors, là, c'est l'invasion ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est ça qui est fou, quoi. Je veux dire, il y a des réflexes élémentaires qui sont même plus là, quoi. Alors, moi, je veux dire, c'est un avis extérieur. Hein. Moi, je connais pas l'armée, j'ai un regard extérieur là-dessus. Enfin, bon, quand je vois tous leurs généraux, etc., il y a surtout du carriérisme là-dedans. Hein. Je vois des gens qui pensent à leur point retraite. Je vois pas vraiment de foudre de guerre dans tout cet équipage. Alors il y a peut-être quelques types qui font de l'opposition interne, mais qui doivent être noyés dans la masse des carriéristes, quoi.
Ouais, alors beaucoup... attention, hein. Alors, Saint-Cyr est de très loin la plus droitarde des grandes écoles.
L'anecdote ici, elle se passe en Belgique, mais ça ne change strictement rien. Elle se passe dans les années, à la moitié des années 90. À l'école royale militaire. L'école royale militaire, c'est la crème, c'est l'école numéro un pour les officiers de l'armée belge. Et à la moitié des années 90, un jour, je lis un ordre journalier qui paraît dans les unités, et je vois que va se donner une conférence à l'école royale militaire, donc dans le sein des saints. Et cette conférence est donnée par un professeur du nom de Jacques Verhagen, et le thème de la conférence est, tenez-vous bien, de l'obéissance aux ordres manifestement criminels. Or, vous savez qu'une armée est un système hiérarchique qui repose sur les ordres et l'obéissance. Et voilà que quelqu'un accepte ou fait venir un un type qui est un professeur, qui est un subversif, de gauche très certainement, et ce type vient expliquer aux militaires que, attention, vous ne pouvez pas accepter tous les ordres qui vous sont donnés, parce que parmi ceux-ci, il y a des ordres manifestement criminels.
Alors, c'est-à-dire les ordres qui sont contraires aux consignes du Parti communiste, je présume.
Mais les ordres qui sont contraires aux pseudo-droits de l'homme, qui sont le bras armé d'un système communiste, n'ayons pas peur des mots. Hein. Moi, j'explique ce qui se passe en Belgique, ce qui s'est passé du côté des professeurs et des gens qui sont les responsables de cette école. Donc, vous avez les deux facettes dans cette explication.
D'accord. En tout cas, là, on a eu un nouvel épisode d'accès de fièvre bougnoulique, mais qui est une goutte d'eau dans la fièvre bougnoulique, hein, c'est tout à fait clair. À observer que cette attaque s'est déroulée le 23 mars, alors qu'il y avait eu deux attaques, le 22 mars 2017 et 22 mars 2016. 22 mars 2016, je crois que c'était les attaques de Bruxelles, si ma mémoire est exacte.
Oui.
Et 22 mars 2017, il y avait eu une attaque, mais j'ai oublié laquelle, il y en avait tellement, je perds un peu le fil. Et là, c'était le 23. Je pense que c'est pas totalement anodin. Probablement, ils voulaient marquer le coup. Alors pourquoi le 22 mars? Bon, je sais pas. Peut-être une date à laquelle ils tiennent particulièrement. J'en ai strictement aucune idée. C'est peut-être aussi totalement le hasard. Mais enfin bon, ça, c'est un nouvel épisode. Mais je veux dire, moi, ce qui m'inquiète grandement là-dedans, c'est le travail du système, le travail du gouvernement en place. Indépendamment des présidents qui se trouvent à la tête de l'État, c'est ce travail permanent en fait d'acclimatation à la déchéance, à l'invasion, à la pénétration musulmane de plus en plus forte, à la démoralisation qu'on voit, à l'action de la gauche et de l'extrême gauche avec des migrants, sans migrants, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau des facs, etc. Donc on voit cette espèce de décomposition partout. On voit que l'armée va être visée. Et je me dis, dans une semaine, alors on a parlé de ce qu'a fait ce lieutenant-colonel, mais indépendamment de ça, je veux dire, il sera oublié. Dans une semaine, on sait qu'il sera oublié. Vous aurez du Hanouna à la télévision, il va bien faire son boulot d'abrutissement. Vous aurez du Yann Barthès, qui va aussi faire son boulot. On va revoir les mêmes clowns à la télévision, les mêmes saboteurs éternels. Les gens vont se remettre, ils n'ont pas cessé, mais je veux dire, ils vont joyeusement faire comme si de rien n'était, et donc cet officier qui est mort et les autres qui sont morts, parce qu'il y a eu au total il y a trois morts. Bon, je compte pas le cafard qui s'est fait écraser la tête, hein, mais il y a eu trois personnes innocentes qui ont été tuées. Ils rejoignent la longue liste qui existe déjà. Vous avez les deux flics de Magnanville qui ont été égorgés devant leur gamin de 3 ans. Qui parle de ça? Personne parle de ça. Personne, l'immense majorité des gens, grâce à ce système, de distraction de masse, de leurre de masse, qui est l'abrutissement avec toute cette télévision, tous ces gens-là. J'en ai déjà parlé là, du rire permanent à la télévision. Là, ils sont toujours en train de rire comme des cons, ils savent même pas pourquoi. Ça n'arrête jamais et on va oublier ce qui s'est passé. Et ça va recommencer du coup. Alors que les autres, vous avez vu, détail très important rappelé par MacDav, les autres là, GIG n'arrive chez eux, ils savent pourquoi ils vous détestent, ils savent pourquoi ils vous caillassent, et ils savent ce qu'ils feraient s'ils pouvaient foutre la main sur un seul de ces mecs du GIGN, je veux dire, pris comme ça, de cours isolément, ils le lynchent. C'est clair.
Mais c'est déjà arrivé à Carcassonne. Souviens-toi, dans une boîte de nuit, il y a deux types qui ont fait les marioles du GIGN qui étaient vraiment... Hein, ils l'ont dit, certainement pour intimider les filles, ils sont fait déglinguer par la bande de bougnoules qui était autour, voilà.
Oh putain, je savais pas cette histoire. Alors, Montpellier est complètement rongé, mais toutes les villes sont complètement rongées par tous ces gens-là, il y a des cellules de l'État islamique absolument partout. Et puis en plus, on le voit, un bougnoule avec un couteau et un pétard qui s'est à peine tiré, hop, un déclic, il va tuer les gens. Et ça, c'est un mec qui est pas organisé. Alors imaginez s'ils s'organisent un petit peu, qu'on leur file un peu de blé, quoi. Voilà, donc Bon, ce n'est pas avec des gouvernements de clampins comme on a aujourd'hui que ça va évoluer. Le pauvre Macron, Macron, il fait des phrases, il va rendre des hommages, etc. Tout le monde va trouver, oh, mais il est très bien, il présente très bien, il parle très bien, etc. Bon, bah, c'est lui qui donne des papiers à toute cette faune. Il va même les chercher au Niger maintenant, chercher au Niger, au Mali. Carrément des têtes, des ponts aériens pour apporter des nègres. Comme s'ils arrivaient, c'était pas assez par bateau et par terre. Maintenant, il faut même faire des ponts aériens pour apporter des nègres. C'est vous dire s'ils veulent quelque chose. Et alors voilà, bon, il n'y a pas l'ombre d'un début de lutte sérieuse contre toute cette pourrie. On parle de, en France, on parle de centaines de milliers de gens, de cafards qui veulent en découdre. Ils n'attendent que l'opportunité. Vous avez des musulmans radicaux qui défilent à la télévision, qui font savoir toute leur... Il n'y a pas besoin de forcer, quoi. Ils disent ce qu'ils vont faire, et on sait très bien ce qu'ils veulent faire. Et ça continue. Donc, je ne sais pas jusqu'où il va falloir que ça aille. Et combien il va falloir de morts pour qu'il y ait une réaction à la fois, oui, surtout d'abord dans le peuple, mais que ça commence à se matérialiser. Je veux dire, on peut pas dire... Parce que là, moi je trouve qu'on a été relativement chanceux, parce qu'il s'en est pris à des gens dans un supermarché. Moi je me pose la question, comment se fait-il qu'ils n'ont pas encore attaqué une école ?
Bah, j'ai envie de dire, c'est déjà fait.
Toulouse.
L'école juive qu'ils avaient attaquée, c'est vrai.
Mais ça, c'est un conflit. Ça, c'est un conflit inter-sémitique, ça.
Oui, c'est une projection du conflit israélo-palestinien, absolument évident. Mais je veux dire, oui, non, mais t'as raison. Sur le principe, ils sont d'accord de déliminer à vue des gosses. Oui, non, mais oui, bien sûr. Mais ils l'ont pas fait encore. Moi, je me dis, mais c'est bizarre. Ils sont pas encore entrés, je sais pas, dans une école primaire quelque part. Je sais pas, à Perpignan ou à Lyon, machin, et puis paf, 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 il tue comme ça, machin, Allah ou Akbar, il se fait péter avec une ceinture d'explosifs. Et c'est ça en plus le truc avec ces gens-là. C'est-à-dire que ceux-là, ils veulent crever. Donc ça change complètement la donne, parce que les terroristes rouges de jadis, eux, ils voulaient toujours négocier un truc, vous voyez, donc ils voulaient pas crever. Donc il y a de la négo, il y a des trucs. Ceux-là, ils s'en foutent, ils rentrent en mission, ils savent qu'ils vont crever, ils veulent crever. Donc les types sont ultra dangereux. C'est grave.
Oui. J'aimerais revenir un petit peu sur ce que tu as dit il y a quelques secondes, Gandalf.
Ouais.
Tu as parlé, tu as invoqué toi ou quelqu'un d'autre, et tu as développé le fait d'attaquer une école. Alors moi, je vais attirer votre attention sur quelque chose d'autre qui n'est pas exactement le sujet, mais qui est complémentaire. Vous voyez, vous pouvez observer qu'en Europe, dans de nombreux pays européens, les États tentent par tous les moyens de minimiser le nombre d'armes à disposition de la population. Ça, vous n'ignorez pas. La France n'est pas le pire des cas, mais allez en Allemagne ou en Belgique et vous allez voir, ou encore ailleurs, en Angleterre par exemple. Or, quel est l'événement qui a commencé qui a permis à cette stratégie de désarmement de la population normale? C'est un événement qui est arrivé en Écosse en 1999. Je ne sais pas si vous êtes plus jeune, vous ne vous en souviendrez peut-être pas. Moi, je m'en souviens parce que je suis ça de très près. C'est un type qui était un blanc, qui était complètement fou apparemment, qui est entré dans une école maternelle avec deux pistolets automatiques chargés à rabord, et qui a ouvert le feu tout azimut, qui a tué une institutrice et je ne sais plus combien d'enfants. Ça a permis à l'État de Grande-Bretagne, pas anglais, mais de Grande-Bretagne, de faire un ramassage général des armes détenues par des chasseurs, par des tireurs, de loisirs ou de sport, peu importe. On a raflé tout et on n'a plus autorisé en Grande-Bretagne que les compétiteurs à posséder une arme est uniquement dans le petit calibre de 22 long rifle au maximum. Or, il y a eu toute une série d'attentats criminels, parfois moins graves, parfois aussi graves, qui ont permis dans les différents pays européens de désarmer les gens. En Belgique, par exemple, ça a été l'affaire Van Temsch en 2006, qui a tiré sur une femme turque, une jeune négresse et une petite fille blanche, mais malgré ça, on a dit que c'était un acte raciste. Bon, moi, j'en ai parlé dans une émission précédente, mais j'insiste, nos gouvernants, nos États, ne font pas les choses à moitié. ils ne font, ce n'est pas le hasard. Si on évite que des bougnoules aillent attaquer des écoles, sauf éventuellement une école juive, parce que là, il y a un intérêt particulier, mais on permettra à un blanc complètement fou de le faire. Si vous rassemblez ce que je viens de vous raconter, si vous faites la synthèse, vous comprendrez qu'il s'agit précisément de désarmer les populations blanches en s'occupant des armes légalement détenues, et il s'agit de laisser courir le trafic d'armes pour les autres.
Oui, bah, d'ailleurs, tu parlais de la situation des armes en France. Alors, effectivement, les Blancs sont totalement désarmés. En France, il n'y a presque plus... ils se sont désarmés tout seuls, parce qu'en France, on peut encore être armé assez facilement en étant chasseur, en faisant du tir de compétition ou en cachant tout simplement les armes de papy. Mais par contre, dans les banlieues, ils sont tous, absolument tous, armés. Le moindre bougnoule a chez lui un calibre. Et ça, tous ceux qui connaissent la banlieue, voilà, j'en reviens à certains espèces de cassos réfugiés en Hongrie, encore l'homonyme, là, c'est cette espèce de taré qui essaye de se faire passer pour le bon Frédéric dans l'évier, qui nous parle de taper sur du bougnoule et d'être viril. Le type, ça se voit que ça fait 30 ans qu'il est réfugié en Hongrie. Aujourd'hui, les bougnoules, tu vas pas te taper à main nue avec des bougnoules. Hein. Y a aucun blanc qui connaît la banlieue qui fait ça. Je veux dire, ils ont tous systématiquement au moins des couteaux. Et si dans la bande, t'en as pas un qui, pour faire son mariole, a un calibre dans la ceinture, c'est vraiment que t'es un putain de chatard. Et ces gens-là, comme le disait Gandalf, ils en ont absolument rien à péter de rien. En plus, tuer un blanc, c'est quasiment récompensé aujourd'hui. Donc, Un espèce de colosse qui vient dégommer un bougnoule, il a une chance sur trois, et je suis vraiment je vois le truc plutôt à la baisse, quoi. Il a une chance sur trois de se faire couper, de se faire taillader ou de se faire carrément plomber, quoi. Les armes en banlieue, c'est il y en a autant que du shit, quoi. C'est vraiment monnaie courante, quoi.
Bon, de là à dire, enfin, tu exagères un peu, hein, de là à dire que chaque famille maghrébine a une arme chez elle, bon, faut pas pousser non plus, quoi. Effectivement, c'est sûr que dans les banlieues, il y a beaucoup d'armes à feu, d'armes légères, d'infanterie, comme on dit. Les gars dans les cités étaient équipés même de mortiers, en fait, donc d'artillerie légère. Hein. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'ils vont pouvoir enfin passer à l'action et pouvoir véritablement monter toute l'opinion publique contre eux, quoi. Je tiens à rappeler que, puisqu'on parle de l'armée, il y a quelque chose pour laquelle l'armée française est très forte, ce sont les actions civilo-militaires, notamment gagner le cœur et les esprits des populations. Ce qui est très important, ce qui permet par exemple d'avoir les locaux qui collaborent avec les armées françaises, enfin l'armée française quand elle n'est pas des unités. C'est notre rôle à nous, en fait, hein, parce que tout à l'heure, Gandalf, tu te demandais quand est-ce qu'elle est arrivée la réaction du peuple français. Ben, si réaction un jour il doit y avoir, c'est lorsque nous aurons effectué ça, c'est-à-dire récupérer la position morale, le moral high ground, et ça se passe par des actions qui nous permettent justement de faire comprendre aux populations qu'elles doivent se mettre de notre côté.
Bien sûr, ben je suis d'accord avec toi. Alors, avant qu'on se sépare, je voulais juste marquer un point, c'est que la démoralisation, elle est permanente. Elle vise, l'armée, avec le dernier truc, c'est Saint-Cyr. Mais les cas Adama Traoré ou Théoluaka, c'est caricatural. C'est-à-dire que Théoluaka, c'est le fils d'une tribu congolaise mafieuse. Bon, c'est avéré, c'est su. Ils ont truandé des centaines de milliers d'euros au fisc français, alors qu'on sait qu'en fait c'est passé par des arrangements avec le pouvoir politique socialiste, etc. Hollande s'est précipité au pied de l'hôte nègre parce qu'il a été tout de suite mis au courant du pédigré de l'animal que la tribu élargie avait un ministre au Congo, etc. Donc tout ça n'est pas dû au hasard. Et on sait que la famille est criminelle, on sait qu'ils ont menti, on a eu les images, on voit les images, il n'y a rien, on voit que c'est tout est bidon. On continue encore sur les grands médias français à montrer cet oiseau-là. On le voit, le mec, c'est drôle, c'est que TF1, alors j'aime bien appuyer sur ce point-là, parce que la chaîne du patronat, quand même, à dire la gauche, est allée interviewer Théoluaka dans sa maison. Alors attention, ils ne vivent pas dans un clapier, hein, attention, ils ont du pognon, les mecs, hein. Et alors, le mec est en train de chouiner, oh là là, je souffre, je peux à peine marcher, je suis marqué à vie. Deux jours après, une vidéo YouTube tourne, il était en train de danser sur scène dans un concert de rap, il y avait toute une masse de nègres surexcités, mais vraiment quand je dis une masse, c'était une masse de nègres, et le mec était en fait en très bonne santé. Alors, je vous pose la question, pourquoi des médias aussi puissants que TF1, pour pas citer tous les autres, toute la radio d'État, la télévision d'État, France 2 et tout le reste, pourquoi ils font la promotion de ce mec alors qu'on sait que c'est un menteur, on sait que c'est un mafieux, et on sait que toute cette tribu a monté ça de A à Z et qu'ils sont appuyés par l'extrême gauche pour leur propagande. Pourquoi ces grands médias font ça? Il y a un calcul. Je veux dire, tu peux tromper un média, tu peux pas tromper toute la machinerie médiatique française. Donc comment ça se fait? Eh ben en fait, c'était une offensive qui était menée, c'est ma conclusion, qui était menée contre la police, qui vise à tellement intimider la police qu'elle n'ose plus, si vous voulez, même broncher, quoi. C'est vraiment de l'intimidation pure. Et c'est fait par le pouvoir politique français. C'est-à-dire que... Bon, pour moi, c'est ma conclusion de ce truc-là. Et en plus, le truc, c'est que vous avez du Théoluaka, du Adama Traoré, ils vous en sortent un maintenant tous les ans, je veux dire.
Et quand tu parles de police intimidée, je tiens à rappeler qu'en Angleterre, il y a un des plus grands scandales qui a explosé là ces dernières années, ce sont les viols massifs d'adolescentes et même d'enfants hein, blanches, ouais. À 99%, par des gangs organisés de Pakistanais. Donc je vous invite les auditeurs à chercher le Asian Grooming Gang. Ce qui s'est passé, c'est que non seulement les pouvoirs politiques locaux, hein, qui sont majoritairement des anti-blancs, des socialistes anglais, mais également des bougnoules, enfin des Pakistanais pour le coup, qui étaient employés dans la police, ont tué ces histoires-là, bah, pour des raisons qui semblent évidentes. Mais en plus, les blancs qui étaient dans la police et qui auraient pu faire leur travail de détective, d'enquêteur, ils ont été intimidés. Parce que dans les rapports, il y avait ça, notamment le fait que les policiers avaient peur d'aller faire des enquêtes, de peur d'être traité de raciste, en fait.
En fait, c'est pas qu'ils ont peur d'être ils ont pas peur d'être traités de raciste au sens strict, ils ont peur qu'on les accuse de racisme et que non seulement on casse leur enquête, mais qu'ensuite on les casse tout simplement professionnellement. C'est plus ça, en fait.
Oui, mais c'est ce que sous-j'entendais, bien sûr.
Oui, voilà. Mais je lis ça dans la presse. J'ai lu ça sur F2 Souche. Ils ont peur d'être traités de raciste. Il faut être un peu plus précis. En fait, c'est pas la peur d'être traité de raciste, c'est qu'ils savent que on va brandir le truc et ça n'ira nulle part. Fulbert, et ensuite on se sépare.
Oui, je voulais simplement un peu compléter ce que disait Hoffman. En Angleterre, en fait, c'est beaucoup plus grave qu'une simple affaire, parce que ce n'est pas un endroit, Telford, que l'on a mis en évidence récemment, mais avant, il y avait déjà eu Rotherham, mais il y a aussi Rochdale, Bedford, et encore toute une série de patelins qui se situent ailleurs, qui sont bien dispersés dans le pays, où on constate exactement le même effet. Il y a une véritable exploitation de jeunes filles, et de même de très jeunes filles, des gamines, un petit peu à travers tout le pays. Ça, il faut le savoir. Maintenant, vous savez, quand on a un maire de Londres qui est un enculé de Pakistanais, qui est une crapule, un menteur professionnel, c'est un avocat, ne l'oublions pas, qui était le défenseur des islamistes, si je ne m'abuse, lorsqu'il pratiquait son métier d'avocat. Mais il n'y a pas que cela. Regardez qui est devenu le chef du grand district londonien à la police. C'est une dame de 57 ans qui en paraît 15 de plus, qui est complètement vidée de sa substance, qui s'appelle en plus Cressida Dick, quand on sait que Dick signifie « bit » en français. Bon, mais regardez un petit peu ce qui se passe quand on voit qu'on introduit, on place des hommes policiers dans la police britannique qui sont voilés avec un uniforme qui a été créé avec un voile. Écoutez, l'Angleterre est déjà prise.
On se sépare sur ces bonnes paroles et qu'on se dise à la semaine prochaine.
À plus.
À la semaine prochaine.
Bonsoir.